18h-20h,
votre grand journal du soir,
Nathalie Lévy.
Bonsoir à tous, bienvenue, c'est parti pour 2 heures d'infos, d'analyse, de débat. Je suis ravie de vous retrouver, c'est votre grand journal du soir. Dans un instant, c'est l'info du jour avec Sébastien Krebs. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
À la une de l'actualité ce soir, Ségolène Royal a-t-elle utilisé à des fins personnelles l'enveloppe mise à sa disposition lorsqu'elle était ambassadrice des pôles? Le parquet national financier ouvre une enquête préliminaire. On y revient également avec les grandes voix à 18h30. Quel peut être l'avenir et l'avenir politique même de Ségolène Royal? On leur posera la question juste avant l'interview du soir. La question qui fâche, que faut-il faire des djihadistes français qui ont purgé leur peine? Je poserai la question à mon invité, l'avocat Thibaut de Montbrial. Et puis restez avec nous, un peu de sud, un peu d'humour. Dès 19h30 dans cette grisaille, l'humoriste Mathieu Madénian nous rejoindra. Il parle des rapports familiaux dans son nouveau spectacle avec le sourire, bien sûr. C'est l'info qu'il vous faut, c'est votre grand journal du soir pour écouter ensemble Le Monde Changé. C'est parti jusqu'à 20h.
Vous écoutez Europe 1, il est 18h.
La diplomatie, c'est une mission. La politique, c'en est une autre.
Ségolène Royal dans le collimateur. L'affaire n'est plus seulement politique, elle devient donc judiciaire. Enquête ouverte par le parquet national financier.
La justice veut savoir en fait si elle a utilisé, Ségolène Royal, ses moyens d'ambassadrice des pôles à des fins personnelles.
Le gouvernement réuni en séminaire tente de tourner la page des grèves. Elle n'a que trop duré, dit Édouard Philippe. Et de fait, dans les transports, la mobilisation marque le pas. Différence visible pour les usagers.
Clairement, oui, je mettais 2 heures avant. Et aujourd'hui, je mets plus qu'une heure globalement.
SNCF, RATP, prévision encore en nette amélioration pour demain.
Le taux du livret A va-t-il baisser? C'est ce que préconise la Banque de France. Décision de Bercy attendue cette semaine.
Deuxième journée d'audience et enchaînement de témoignages toujours plus glaçants au procès du père Prena.
C'était une industrie, il s'est arrivé plusieurs fois comme ça. Il était prêt à faire ça avec d'autres enfants dans la même journée.
On aurait dû m'aider, répond l'ancien prêtre.
À suivre aussi Donald Trump aux États-Unis qui signe la trêve dans la guerre commerciale avec la Chine.
Et le PSG en déplacement à Monaco ce soir qui va tenter de faire mieux que dimanche dernier. La bourse de Paris en léger recul, moins 0,14% à 6032 points.
Bonsoir Anissa.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
Et du côté du ciel?
Eh bien pour demain c'est assez simple, des nuages très gris au nord et au sud, de la pluie en Bretagne et partout ailleurs, du grand et beau soleil, des températures très douces. Je vous donne tout le détail à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Nathalie Lévy, Sébastien Krebs.
L'affaire prend ce soir donc une toute autre tournure. Il y avait l'aspect politique, Ségolène Royal menacée d'être débranchée de son poste d'ambassadrice des pôles pour avoir un peu trop critiqué le gouvernement. Il y a maintenant une enquête judiciaire, enquête ouverte par le parquet national financier. Bonsoir Marion Dubreuil.
Bonsoir.
Il s'agit de vérifier l'utilisation des moyens mis à sa disposition.
Oui, alors même si c'est une mission bénévole, Ségolène Royal dispose en tant qu'ambassadrice de 3 collaborateurs payés par le ministère des Affaires étrangères. Or, d'après une enquête de nos confrères de Radio France, ces salariés du Quai d'Orsay ont tous été aperçus ces derniers mois avec Ségolène Royal à des événements qui n'ont a priori rien à voir avec la diplomatie. Une assistante l'accompagne par exemple à Montpellier, Poitiers, Brest pour des conférences et séances de dédicaces de son dernier livre. Ségolène Royal se justifie cet après-midi sur Facebook. Elle assure que son éditeur a pris en charge la totalité des frais de promotion de ce livre. Courrier signé du directeur des éditions Fayard à l'appui. Pas un mot en revanche sur les déplacements dans son fief en Poitou-Charentes pour une série d'inaugurations, ni sur le voyage de son conseiller communication au Sénégal pour s'assurer de l'avancée de projets de maternité solaire dont la fondation de Ségolène Royal fait la promotion. En novembre dernier, Ségolène Royal expliquait simplement que ses collaborateurs l'accompagnaient sur leur temps libre. Enfin, l'ancienne candidate à la présidentielle disposerait d'une enveloppe de 100 000 euros par an pour ses frais de mission d'ambassadrice, un montant qu'elle dément, mais elle ne donne aucune explication, par exemple sur les 1500 euros de facture de chauffeur privé pour le seul mois de novembre 2017. Sur Facebook, elle l'assure, elle a parfaitement respecté les règles de rigueur qui s'imposent.
Marion Dubreuil du service police-justice d'Europe 1, merci. On va en reparler avec les grandes voix à 18h30 et poser la question d'ailleurs, hein, redonner sa liberté de parole à Ségolène Royal, est-ce vraiment le bon calcul pour Emmanuel Macron? Rendez-vous avec les grandes voix.
Et rien de nouveau, hein, réagissez tout à l'heure sur Twitter, Ségolène Royal. Ce soir, le parquet national financier précise que cette enquête a effectivement été ouverte depuis le mois de novembre dernier, donc depuis les révélations dans les médias sur les déplacements de Ségolène Royal. En tout cas, sans attendre les résultats de cette enquête, le gouvernement pourrait décider de la démettre de ses fonctions d'ambassadrice des pôles lors du Conseil des ministres la semaine prochaine, au motif cette fois qu'elle est sortie de son devoir de réserve. Écoutez Édouard Philippe.
Un ambassadeur, c'est fait pour faire de la diplomatie. Nous allons donc demandé à Madame Royal quelle était sa position sur cette nécessaire obligation de réserve et le respect qu'elle doit à cette obligation de réserve. Elle fera sans doute valoir ses observations et nous aurons l'occasion de prendre une décision après avoir lu et réfléchi à ces observations. La diplomatie, c'est une mission, la politique, c'en est une autre.
Le Premier ministre Édouard Philippe avec Jean-Rémy Baudeau.
Déclaration à l'issue d'un séminaire gouvernemental tout à l'heure, consacré à tout sauf aux retraites.
Le gouvernement tente de tourner la page et d'évoquer la suite du calendrier 2020, plan climat, avec la fermeture de la centrale de Fessenheim, un livre blanc annoncé sur la sécurité et la reprise de la dette des hôpitaux. La grève, elle, dans les transports, n'a que trop duré, a dit tout à l'heure le Premier ministre.
Et de fait, la mobilisation marque clairement le pas. Conséquence visible, le trafic s'améliore enfin et nettement sur les rails. Jean-Jacques Herry, vous avez rencontré des agents de la RATP qui ont repris le travail résignés. Hein.
Oui, résigné un peu, mais surtout asphyxié financièrement. Un conducteur de métro me confiait tout à l'heure, un mois de grève sans salaire, ça commençait à faire long. Alors il a repris le travail il y a deux jours et d'autres collègues reviendront la semaine prochaine, me disait-il aussi. Ce retour des conducteurs, il ravit évidemment les usagers qui voient déjà la différence très concrètement le matin pour venir travailler comme Maxime.
Clairement, oui, je mettais deux heures avant et aujourd'hui je mets plus qu'une heure globalement, sachant que j'habite à Marne-la-Vallée, donc pour venir ici ça va. RER A jusqu'à Gare de Lyon, métro 14, métro 8 et puis une heure.
Ça vous a fait quoi quand vous avez mis une heure alors que vous étiez habitué à mettre deux heures?
De la joie. Beaucoup de joie et puis c'est tout.
Aujourd'hui, toutes les lignes de métro fonctionnent, alors pas forcément en continu, pas forcément toute la journée, avec des fréquences qui peuvent être très variables, mais en tout cas, elles fonctionnent, même si ça n'est pas encore assez pour rassurer les passagers qui franchissent les tourniquets du métro. Philippe, d'ailleurs, porte une trottinette sur l'épaule.
Ça va un petit peu mieux, mais on est obligé des fois, il y a toujours des surprises, parce que ça m'est déjà arrivé d'aller dans une station soi-disant ouverte, et puis à ce moment-là, on vous dit qu'elle est fermée ou elle n'est pas desservie, donc vaut mieux avoir une trottinette sur soi, on ne sait jamais. Enfin, on est content, parce que sur la longue, c'est vrai que ça devenait épuisant, quoi.
Et en discutant avec les voyageurs, quelques-uns m'ont raconté avoir déjà abandonné leur vélo pour revenir dans les transports en commun. Vous voyez, sur les quais du métro, on fait comme si la grève était déjà finie.
Jean-Jacques Herry dans les transports parisiens et l'amélioration va se poursuivre demain à la RATP. Toutes les lignes de métro seront ouvertes, au moins partiellement et certaines toute la journée. La SNCF annonce 90% des TGV en circulation, 80% des TER, les trois quarts des Transiliens et un trafic normal sur les Ouigo.
Alors on se réjouit bien évidemment, mais quelques actions ont tout de même eu lieu aujourd'hui. Blocage de 5 ports par les dockers, notamment à Marseille, ce qui a provoqué, Sébastien, l'annulation d'un ferry.
Plusieurs centaines de fonctionnaires ont aussi manifesté à Paris. Et puis le plus gros incinérateur de déchets en Ile-de-France, à Ivry-sur-Seine, a été évacué ce matin par la police après 24 heures de blocage.
Et voici une question que nous posions dès ce matin sur Europe 1. Quel coût aura la grève? Quel impact sur l'économie?
Premier élément de réponse, rassurant. Le gouverneur de la Banque de France estime que l'impact sera limité à 0,1% de croissance pour le quatrième trimestre. Ce sont principalement les entreprises de l'hôtellerie-restauration qui ont souffert.
Europe 1, il est 18h07, la suite du journal. Sébastien Krebs, Nathalie Lévy.
Si comme 55 millions de Français, vous êtes détenteur d'un livret A, écoutez bien, c'est pour vous, le taux pourrait baisser.
Bonsoir Emmanuel Duteil.
Bonsoir.
Le gouvernement doit décider dans les heures à venir. Et si on en croit la formule de calcul, bien, il risque bien de le baisser, ce taux.
Oui, faire un geste politique ou respecter la réalité, voilà tout simplement le dilemme du ministère de l'Économie. On sait que la nouvelle formule de calcul, qui entre en vigueur pour la toute première fois, doit conduire effectivement à ramener le taux du livret A à 0,5%. Il est à 0,75% en ce moment, hein, il était bloqué depuis plusieurs années. Mais voilà, en pleine crise sur les retraites, à l'approche des municipales, ce n'est pas la décision la plus populaire à prendre. Pourtant, tout semble laisser à penser que Bercy va opter pour l'option réalité. Pourquoi? Eh bien parce que c'est une nouvelle formule de calcul, comme je viens de vous le dire, et c'est quand même assez compliqué d'y déroger dès le premier coup, ça ferait quand même pas super sérieux. Et puis on ne le sait pas toujours, mais le livret A finance la construction de logements sociaux, et le garder à des taux qui ne reflètent pas la réalité économique, eh bien ça renchérit tout bêtement le coût de la construction de ces logements. Donc a priori, les détenteurs de livret A, désolé si vous êtes à l'écoute ce soir, doivent se préparer à une baisse de la rémunération. On devrait avoir la confirmation dans la soirée.
Emmanuel Duteil, et la confirmation et les explications qui vont avec, elles seront signées Bruno Le Maire, le ministre de l'économie. Demain matin, il sera l'invité de la matinale d'Europe 1 à 8h15 avec Sonia Mabrouk et Mathieu Béliard.
Autre information qui concerne aussi vos comptes, regardez bien, vous avez peut-être reçu un crédit d'impôt directement par virement aujourd'hui. 9 millions de foyers concernés. C'est une avance sur les réductions qui s'appliquent aux emplois à domicile par exemple, ou encore aux dons aux associations. Explications à venir dans le journal de 19h.
Europe 1.
Votre grand journal du soir avec Sébastien Krebs et Nathalie Lévy.
Les mots des victimes sont glaçants. À la barre face au père Prenat, récit ce soir de la deuxième journée d'audience à suivre dans votre journal de 18h.
Et puis le PSG veut prendre sa revanche. Il retrouve Monaco pour la deuxième fois en 3 jours.
Votre grand journal du soir, 2 heures d'infos jusqu'à 20h avec Nathalie Lévy. 18h10 sur Europe 1, la suite du journal avec Sébastien Krebs et Nathalie Lévy.
Le procès du père Prenat, Sébastien, qui se poursuit à Lyon, deuxième journée.
Avec les témoignages des victimes qui avaient parfois moins de 10 ans à l'époque des faits, témoignages lourds, glaçants et particulièrement nombreux. Jean-Luc Boujon, vous suivez les audiences depuis hier, c'est le portrait d'un prédateur qui se dessine et qui a très longtemps sévi.
Oui, c'est vrai, parce qu'en 2 jours, on a entendu les témoignages des 10 victimes qui sont parties civiles à ce procès. Cet après-midi, eh bien, on a évoqué le cas de 25 autres victimes dont les cas sont prescrits. Ce n'est donc pas pour ces faits-là que le père Prenat sera jugé, mais cette lecture, cette succession de récits glaçants d'agressions sexuelles, de caresses intimes sur certains enfants, de masturbations sur d'autres, a donné une impression terrible, celle d'un serial prédateur qui agressait à la chaîne. 3 à 4 enfants par semaine, avait admis hier le père Prenat, plutôt 3 à 4 par jour, a corrigé à la barre Stéphane Haro, victime du prêtre à l'âge de 7 ans.
C'était une industrie, il m'est arrivé de croiser un enfant qui sortait de la pièce et moi j'arrivais, donc j'étais le deuxième. Et quand je sortais du petit local derrière l'église, de croiser un autre enfant monté, donc qui lui, pour le coup, était le deuxième. C'est arrivé plusieurs fois comme ça. Il était prêt à faire ça avec d'autres enfants dans la même journée, quoi.
Voilà, face à lui, le père Prenat répète ses excuses, demande un nouveau pardon, mais il n'oublie pas au passage d'égratigner l'église, coupable à ses yeux de l'avoir laissé agir. Il explique: très vite, on s'est rendu compte que j'étais attiré par les petits garçons. On m'a dit que j'étais malade ou anormal. J'aurais bien aimé à la place qu'on me donne les clés pour m'en sortir et me soigner. Le père Prenat, qui se met alors à raconter d'une voix faible les abus dont lui-même aurait été victime dans son enfance de la part d'un prêtre, puis d'un séminariste. « Je ne l'ai jamais raconté à personne, dit-il, sans qu'on sache si c'est la vérité ou une simple stratégie de défense. »
Jean-Luc Boujon au tribunal correctionnel de Lyon pour Europe 1. La grippe, elle est bien là, hein, ça y est, seuil épidémique franchi à la fois en Île-de-France et en région Provence-Alpes-Côte d'Azur selon Santé publique France. 135 cas graves ont déjà été signalés, 22 la semaine dernière, 11 malades sont morts. Attention, les autres régions risquent bien de suivre, elles sont toutes en phase pré-épidémique.
Tandis que la gastro-entérite continue de se renforcer, comme ça c'est complet. Nous allons maintenant aux États-Unis, Sébastien, où Donald Trump enterre l'âge de guerre avec l'ennemi chinois.
Le vice-premier ministre chinois venu de Pékin à la Maison-Blanche, signature en ce moment même en grande pompe d'une trêve dans la guerre commerciale qui fait rage depuis plus d'un an et demi. Xavier Yvon, on vous retrouve aux États-Unis. Une trêve, pas la fin de la guerre, ce qui n'empêche pas Donald Trump de crier victoire. Hein.
Oui, et c'est justement ce que fait en ce moment même Donald Trump depuis un salon de la Maison-Blanche dans une ambiance très solennelle devant une rangée de drapeaux américains et chinois. Autosatisfaction du président, c'est un accord historique, a-t-il triomphé. Ce qu'il y a dans cet accord, c'est en effet ce que demandaient les États-Unis depuis longtemps. Meilleure protection des technologies américaines, plus grande ouverture du marché chinois et la promesse de Pékin de réduire le déficit commercial en achetant pour 200 milliards de dollars de produits américains. Mais attention, ce n'est qu'une trêve, les tarifs douaniers entre les deux pays restent en place tant qu'un accord plus structurel n'aura pas été conclu. Et c'est d'ailleurs la principale critique contre l'administration Trump. Les taxes affectent des secteurs entiers de l'économie américaine qui continuent à souffrir et cet accord intermédiaire ne règle pas les problèmes les plus importants, notamment les subventions de la Chine à son économie. Qu'importe, Donald Trump a besoin d'en faire une victoire politique alors qu'en ce moment même, à quelques minutes de la Maison-Blanche, au Capitole, les parlementaires sont en train d'organiser son procès en destitution.
Xavier, ils vont aux États-Unis hein, et effectivement, ce procès de Donald Trump en destitution pourrait commencer mardi prochain. Ce soir, la Chambre des représentants transmet aux sénateurs l'acte d'accusation.
Et puis en Russie maintenant, Vladimir Poutine veut bousculer les institutions. Il annonce un référendum sur une réforme, une future réforme constitutionnelle.
Il dit vouloir renforcer le rôle du Parlement qui élira désormais le Premier ministre. Dans la foulée, le gouvernement de Dmitri Medvedev, qui est en poste depuis 8 ans, a démissionné.
Et on en parle à 19h20 dans notre rendez-vous demain dans le Monde. La Ligue 1 ce soir, le PSG va-t-il prendre sa revanche? Les Parisiens vexés de leur match nul dimanche hein, retrouvent les monégasques, coup d'envoi 21h.
Pour la deuxième fois donc en 3 jours et cette fois c'est à Monaco, hasard du calendrier dû à un report de ce match au moment des intempéries début décembre. Bonsoir Simon Rubin.
Bonsoir.
Dimanche donc pour l'acte 1, on a assisté au plus beau match de la saison. Est-ce qu'on peut espérer autant de spectacles ce soir ?
Oui, espérons-le. Et pour une raison simple, hein, aucun des deux entraîneurs ne devrait changer son fusil d'épaule. Comprenez, d'un côté comme de l'autre, on va jouer offensivement. Côté PSG, Tourelle reconduit son 4-4-2 avec sur le front offensif quatre joueurs, Neymar, Mbappé, Icardi et sans doute Sarabia, préféré à Di Maria au repos. Pour Monaco, eh bien Ben Yedder, merveilleux dimanche soir, meilleur buteur du championnat, devrait débuter. Cette équipe de Monaco en pleine métamorphose après l'arrivée de son nouvel entraîneur, l'Espagnol Moreno, qui n'avait jamais été entraîneur en chef d'un club auparavant. Alain Roche, notre consultant, est séduit, même s'il faudra confirmer ce soir.
Ça demande confirmation mercredi, ça demandera confirmation lors des prochains matchs. Mais on a senti une adhésion, en tout cas, à sa philosophie de vouloir jouer vers l'avant. Il a mis beaucoup de joueurs techniques dans l'entrejeu aussi, ce qui facilite les choses. Le travail surtout que doit faire Moreno sur cette équipe-là, c'est retrouver de la confiance. Voilà.
De l'attaque, début du spectacle, hein, voilà ce qu'on peut effectivement espérer, même si d'un côté comme de l'autre, on aura quand même à cœur de prendre un peu moins de buts que dimanche soir. Un match d'autant plus crucial, enfin, pour Paris, qu'il constitue toujours un bon test en vue du 8e de finale de Ligue des Champions dans un mois contre Dortmund.
Simon Rubin, coup d'envoi donc 21h. Et en attendant, deux autres matchs débutent à 19h, Amiens-Reims et Nîmes-Rennes. Et puis ça tangue un peu à Marseille. L'entraîneur André Villas-Boas laisse planer le doute sur son avenir à l'OM. Il apprécie peu visiblement l'arrivée d'un nouveau conseiller, le Britannique Paul Aldridge, qui selon l'équipe a été recruté pour vendre certains joueurs à des clubs anglais.
Merci beaucoup Sébastien, l'info avec vous, 18h30 de retour. Anissa, une nouvelle perturbation qui arrive.
Oui, effectivement, une nouvelle perturbation qui cette fois-ci, comme la dernière, arrive par l'ouest, par la pointe bretonne et qui va se renforcer dans l'après-midi avec des pluies assez soutenues demain après-midi et du vent du sud qui souffle fort jusqu'à 110 km/h sur la pointe Finistère, sur la pointe Jura. Demain, ça va souffler fort, soyez extrêmement prudents avec des coefficients de marée assez élevés, puis dans les terres jusqu'à 80 km/h. Alors sur la Normandie, le Cotentin, les Pays de la Loire, là le vent souffle également demain à l'avant de cette nouvelle perturbation sur toute la moitié nord et sur le long de la Méditerranée aussi. Là, le ciel est très couvert demain matin, il sera plus dégagé dans l'après-midi. Partout ailleurs, donc entre le nord, le sud et la Bretagne, donc toutes les régions qui se trouvent entre le nord et le sud, et bien là c'est du grand et beau soleil pour vous demain sur les Pays de la Loire, la région parisienne, les Ardennes, le Nivernais, le Val-de-Saône. Soleil dominant, les températures elles sont douces pour un mois de janvier. 3 à 6 degrés demain matin jusqu'à 10 degrés au bord de la Méditerranée. Demain après-midi, nous aurons 11 à Aurillac, 13 à Caen, Nancy et Belfort, 14 à Paris et Carcassonne, 15 degrés à Clermont-Ferrand et jusqu'à 18 degrés demain après-midi à Saint-Jean-de-Luz.
Europe 1.
La suite de votre grand journal du soir, Nathalie Lévy.
Le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé à la mi-journée et pour mars un plan de lutte contre l'islam radical. Mars, c'est juste au moment des municipales. Hein. On en parle dans deux minutes avec l'avocat Thibault de Montbrial, mon invité, ainsi que du rapatriement des djihadistes. Il me rejoint dans ce studio.
Votre grand journal du soir, 2 heures d'infos tous les jours jusqu'à 20h. Votre grand journal du soir se poursuit, Nathalie Lévy. Que faire des djihadistes français qui ont purgé leur peine ? La question se pose alors que dans le même temps, le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé aujourd'hui un plan de lutte contre l'islam radical d'ici le mois de mars. Vous recevez ce soir, Nathalie, l'avocat Thibault de Montbrial.
Avocat au barreau de Paris, président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure. Bonsoir, maître Thibault de Montbrial.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté mon invitation. Quelques mots d'abord sur cette annonce d'Édouard Philippe à la mi-journée, ce plan contre l'islam radical annoncé pour mars. Est-ce que vous avez déjà une idée des contours ? Est-ce que vous pouvez imaginer ce que cela sera alors qu'on sera dans le début des municipales ?
Écoutez, c'est une annonce qui est intéressante parce que d'abord, elle concerne un problème qui est probablement l'un des problèmes centraux auxquels la société française est confrontée et qui sera sans doute l'enjeu politique des années qui viennent. Et puis parce que, souvenez-vous, depuis 2016, le début de la campagne pour les élections présidentielles, le candidat d'alors, Emmanuel Macron, promettait qu'il allait prendre à bras-le-corps ce sujet, annonçait des discours qui étaient tous repoussés les uns après les autres, et puis il a été élu président. Et puis il a parlé et s'est d'ailleurs occupé plutôt bien des questions de terrorisme au sens technique, mais par contre l'islamisme dont on parle de plus en plus avec des universitaires qui font des travaux très préoccupants, eh bien les grands discours et les débats sur l'islamisme sont reportés.
Vous nous dites en creux que le régalien c'est clairement pas une évidence pour Emmanuel Macron, l'islam radical encore moins, et là le fait que ça vienne s'installer au mois de mars alors qu'on a les municipales juste derrière, ça ressemble à de l'opportunisme politique.
Moi, je vais vous dire, j'attends de voir. J'attends de voir si ce problème est enfin pris à bras-le-corps avec, des solutions percutantes, les solutions percutantes qu'il nécessite, je serai ravi. Si on me demande mon avis, je le donnerai. Ouais. Mais encore une fois, je suis très prudent parce que ça fait 4 ans qu'on nous en parle et il ne se passe rien.
Des solutions percutantes, quelles pourraient-elles être aujourd'hui quand on voit la question du rapatriement des djihadistes, on va y venir dans un instant, quand on voit ces territoires conquis de l'islamisme d'Aubervilliers à Toulouse, toutes les zones aujourd'hui sont touchées, quand on voit, on se souvient de ce salarié, de cet homme de la fonction publique l'année dernière qui a tué dans la fonction publique.
Je pense, alors les questions terroristes, elles sont prises en compte. La question, c'est toute cette partie du comportement islamiste qui est contraire aux lois de la République, mais qui n'est pas pour autant constitutif d'un crime ou d'un délit. Moi, je pense qu'il faut que la République soit extrêmement ferme. Ça fait des décennies qu'elle ne l'a pas été, ce qui a permis malheureusement l'arrivée de ce problème enquisté au point où il l'est aujourd'hui. Et je crois qu'il faut interdire, lutter contre des comportements qui, sans être des comportements violents, sont des comportements qui conduisent, pour reprendre l'expression de François Hollande dans le livre de Davet et l'Homme en 2015, quand il était président de la République, à la partition de notre pays. Il faut tout faire pour interdire la partition de notre pays, et je pense qu'il faudra interdire certains comportements, expulser beaucoup plus, avec beaucoup plus d'efficacité un certain nombre de gens qui n'ont rien à faire sur notre territoire, et enfin déclarer une guerre à cette idéologie qui est quand même aussi l'antichambre du terrorisme.
Donc quand Emmanuel Macron parle d'hydre islamiste il y a quelques mois, vous en souvenez,
oui,
vous le saluez, maintenant il faut passer aux actes. C'est ce que vous nous dites, voilà. Thibault de Montbrial, ce soir, et notamment quand vous faites référence à certains comportements ou à l'expulsion de certaines personnes, allons-y. Cette question du rapatriement des djihadistes, la ministre de la Justice Nicole Belloubet, ce week-end, qui entrouvre comme ça cette solution, faut-il les faire revenir et les juger en France? Parce que c'est ce qu'elle dit.
Alors c'est un problème très complexe. Un certain nombre de gens, moi j'en fais partie, étaient plutôt favorables à ce qu'ils restent, ce qu'ils soient jugés,
en Irak.
Notamment en Irak, qui est un pays souverain, pour qu'ils y purgent une peine qui est dans des conditions difficiles, en restant le plus loin possible hors de notre territoire. La difficulté, c'est qu'avec la déstabilisation du Kurdistan par l'invasion turque, enfin par l'entrée des forces turques au nord de la Syrie, c'est de moins en moins possible de garder ces gens sous contrôle. Donc on se dit, le pis-aller, c'est de les juger en France. J'aimerais attirer l'attention de chacun sur une double difficulté. La première, c'est que pendant très longtemps, et malheureusement c'est encore un petit peu le cas, la justice française est assez naïve face à ces gens.
C'est-à-dire
que les peines qui sont prononcées par la justice antiterroriste sont en réalité beaucoup plus faibles qu'elles ne le devraient. Et il y a une polémique avec le procureur national antiterroriste et la DGSI qui sont furieux des peines qui sont actuellement prononcées.
Donc elle est justifiée, la crainte de l'opinion de dire, quand ils sont libérés, ils sont dans la nature.
Alors, je pense
parce qu'ils sont libérés, vous le dites.
Il n'y a pas de solution facile. Ce qu'il faut d'abord, c'est que, les peines, je pense très sincèrement, soient plus longues. Vous savez, les islamistes, contrairement aux Basques...
Pardonnez-moi, ça s'appelle comment? Ça s'appelle la rétention à vie, aujourd'hui, la rétention de sûreté.
Déjà, les peines. Attendez, les peines encourues aujourd'hui, elles sont déjà très lourdes, mais encore faut-il les prononcer. Le problème, si vous voulez, c'est que vous avez des cours d'assises spéciales antiterroristes, notamment juste avant Noël, qui ont baissé des peines de première instance en disant que les individus avaient l'air de sincèrement se repentir à la barre. Il faut savoir une chose, c'est que contrairement aux terroristes basques, les islamistes sont dans une logique de dissimulation de ce qu'ils ont fait. Ils ne l'assument jamais.
Mais donc vous n'avez pas répondu précisément à ma question. Que fait-on de ces personnes alors? On les fait rentrer en France pour les juger, oui ou non?
Il vaut mieux les faire rentrer en France que de les voir disparaître dans la nature en Syrie et de les voir revenir dans 6 mois commettre un attentat. Par contre, il faut les faire revenir en France et les traiter sans naïveté, en les condamnant extrêmement fermement et en gardant pendant toute la durée de leur peine et ensuite
et après
un vrai contrôle sur eux. Il faut quand même savoir que les effectifs, la population que la DGSI doit surveiller après sortie de prison ou de radicalisés en France qui n'ont pas été en prison, est une population qui est supérieure à ce que la DGSI peut vraiment surveiller. Donc chaque individu qu'on ajoute à ce stock, c'est un individu qu'on aura du mal à surveiller.
On parle d'un cas précisément, nommons-le Flavien Moreau, ça date le premier djihadiste condamné à son retour de Syrie qui vient d'être libéré. À droite, donc c'est ce que je vous disais, on est globalement séduit par l'idée de l'élargissement d'une rétention de sûreté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire rétention à vie, si on est clair.
Flavien Moreau, c'est pas le premier à être libéré. Il y en a un certain nombre qui sont libérés, mais c'est un cas assez exactement. Médiatique. Et il a été condamné à une peine très faible, 7 ans de prison, je pense que compte tenu de... Enfin bon, je pense que c'est faible. Maintenant, il est dehors, il faut le surveiller. Espérons qu'il ne commettra pas un attentat dans les mois qui viennent. Ce qui nous pend au nez, c'est ce qui est arrivé en Angleterre, c'est-à-dire un attentat commis par un individu qui a été libéré par le système, par la justice antiterroriste. La rétention, moi je vous le dis, oui, je suis
voilà.
pour. Ah, mais je suis
vous
pour,
êtes pour.
Ah
non, mais attendez, alors, donc, excusez-moi, mais ça s'appelle quoi? De la rétention à vie, donc de la perpétuité,
non.
C'est ça la traduction?
Pas à vie. La rétention, ça veut dire qu'à la fin de la peine, on examine, il y a un collège, ça existe déjà en matière de criminalité, de délinquance sexuelle.
Qui est composé ce collège?
Alors, pour ce qui concerne les délinquances sexuelles, c'est-à-dire ce qui existe depuis une dizaine d'années,
parce qu'au départ, c'est pour cela,
ce sont des experts psy. Si jamais on mettait en place une telle mesure pour les islamistes, il faudrait nécessairement que ce soit des professionnels capables d'apprécier l'état d'esprit des individus à la fin de leur peine. Donc il faudrait qu'on travaille sur le sujet, mais je ne vois pas au nom de quoi on se prive d'une mesure qui est une mesure, encore une fois...
On s'en prive peut-être parce que c'est une... Je cite Maître Henri Leclerc, qui était ce matin l'invité de Sonia Mabrouk. Peut-être parce que c'est une aberration juridique et sociétale, que c'est de la sécurité prédictive si on fait cela.
Mais vous savez, si on demande aux gens, si vous demandez aux gens...
Mais
c'est une règle de droit, ça existe en matière de criminalité sexuelle. Donc pourquoi est-ce que ça n'existerait pas là? Qu'est-ce qui nous empêche de, si ça rentre dans le droit positif, ce sera une règle de droit.
Donc, vous nous dites ce soir que vous êtes séduit aussi, comme à droite, par l'élargissement de cette rétention de sûreté, avec tout, évidemment, l'examen...
Oui, et les individus auront leur situation qui sera réexaminée périodiquement, avec un avocat, etc. Mais je ne vois pas au nom de quoi la société ne pourrait pas se défendre de l'islamisme qui vise à la détruire.
Merci beaucoup, Maître Thibaut de Montbrial, d'être venu ce soir nous le livrer au micro d'Europe 1, avocat au barreau de Paris, président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure. Merci beaucoup.
Merci.
Europe 1.
Vous écoutez votre grand journal du soir sur Europe 1. À suivre, Nathalie Lévy.
Après le rappel des titres, Sébastien Krebs, dans un instant, c'est le débat des grandes voix. On va revenir sur l'affaire Ségolène Royal, justice ou guerre politique. Et puis, le gouvernement qui propose des aménagements aux avocats. On parle là de leur retraite cette fois.
Et vous pouvez interpeller les grandes voix au 39-21, votre grand journal du soir, jusqu'à 20h. 18h30 sur Europe 1, votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy.
Sébastien Krebs, le rappel des titres.
Ségolène Royal répond point par point aux accusations. Pas un euro de sa mission d'ambassadrice d'Épaule n'a été utilisé à des fins personnelles, écrit-elle sur Facebook. Elle promet de délivrer toutes les pièces justificatives au parquet financier qui a ouvert une enquête depuis novembre dernier. La grève à la RATP et à la SNCF n'a que trop duré, lance le Premier ministre Édouard Philippe à l'issue d'un séminaire gouvernemental. Pour demain, les prévisions confirment une amélioration du trafic. 90% des TGV en circulation, 80% des TER, les trois quarts des Transiliens et à la RATP, toutes les lignes de métro ouvriront. L'épidémie de grippe frappe désormais deux régions, seuil dépassé en Île-de-France et en PACA. Les autres devraient suivre la grippe cette année qui a déjà fait 11 morts. La décennie écoulée a été la plus chaude jamais observée dans le monde, conclut un rapport de l'ONU. 2019 fut la deuxième année aux températures les plus élevées. Un rapport qui pointe aussi l'accroissement des phénomènes extrêmes. Donald Trump se rendra bientôt en Chine. Il salue ce soir un accord historique signé à la Maison-Blanche avec le vice-premier ministre chinois. Accord qui débouche sur une trêve qui suspend la guerre commerciale. Et puis le PSG retrouve ce soir Monaco en Ligue 1. Coup d'envoi 21h à 19h. Deux matchs, Amiens-Reims et Nîmes-Rennes.
Merci Sébastien. Et vous, 19h dans ce studio. La journée sera douce demain, nous dit Anissa.
Oui, très douce. Effectivement, demain nous serons le 16 janvier. Les températures sont vraiment exceptionnellement douce pour la saison. Hein. 0 degré à Annecy demain matin, 4 à Lille et Strasbourg, 6 degrés pour Paris, jusqu'à 10 degrés demain matin au bord de la Méditerranée. Dans l'après-midi, 10 à 18 degrés, 12 à Dijon, Grenoble, 14 à Nice et Paris, 16 degrés pour Marseille, 18 degrés, c'est dans le sud-ouest qu'il fera le plus chaud demain, 18 degrés pour Pau, Biarritz ou encore Saint-Jean-de-Luz, donc vous aurez une très belle journée. En ce qui concerne le ciel, des nuages au nord, des nuages sur le bord de la Méditerranée, une nouvelle perturbation qui arrive par la Bretagne avec de la pluie l'après-midi et partout ailleurs, du grand et beau soleil.
Europe 1.
La suite de votre grand journal du soir, Nathalie Lévy, avec jusqu'à 19h le débat des grandes voix autour de vous. Nathalie, ce soir, Catherine Ney, Charles Villeneuve et Gérard Carrérou.
Bonsoir les grandes voix.
Bonsoir.
Bonsoir Nathalie. Bienvenue à tous les trois. Vous avez vu Ségolène Royal qui se défend bec et ongle. Sébastien Krebs le disait à l'instant. Non, il n'y a eu aucun euro de sa mission d'ambassadrice de Pôle utilisé à des fins personnelles, ni pour la promotion de son livre, ni pour autre chose. Et cette enquête du parquet financier, elle date de novembre dernier, il y a 2 mois circulé. Il n'y a rien à voir. Ségolène Royal, on la connaît. Elle peut, quand elle est contrariée, aller très loin, aller très vite en besogne et avoir l'esprit échauffé. Ce licenciement, elle ne risque pas de le laisser passer. Comment vous observez tout ça? Qui veut y aller?
Gérard, vas-y.
Écoutez, Ségolène Royal, il y a plusieurs façons de regarder ce qui lui arrive. Il y a la façon classique et de dire, elle a ce qu'elle mérite, eu égard à la règle. La règle, c'est le devoir de réserve des hauts fonctionnaires, des gens qui sont nommés à des hautes fonctions, qu'il s'agisse de préfets, d'ambassadeurs ou assimilés. Bon, il n'y a pas de raison que quand on est nommé à une de ces fonctions et qu'on l'a accepté, on ne l'a pas obligé à prendre ce poste, qu'on passe son temps, effectivement, à faire autre chose, c'est-à-dire à faire de la politique.
Elle a le droit de faire de la politique, à critiquer la taxe carbone pour les Gilets jaunes, et à critiquer systématiquement la politique du gouvernement.
Donc, si on se place simplement sur l'éthique, au niveau de l'éthique classique, effectivement, elle n'a que ce qu'elle a mérité. Mais en même temps, je dirais qu'elle a exactement obtenu ce qu'elle recherche. Parce qu'elle obtient là ? Elle a une couverture médiatique exceptionnelle. D'ailleurs, nous en parlons ce soir, tout le monde en parle, tous les journaux en parlent. C'est le meilleur lancement médiatique pour sa candidature aux primaires socialistes. Souvenez-vous qu'elle a quand même été déjà candidate à la présidence, qu'elle a été finaliste et qu'elle a fait 10 millions de voix au deuxième tour et qu'elle avait battu lors des primaires socialistes, des gens aussi importants que Strauss-Kahn et Laurent Fabius.
Mais elle a été battue en 2008.
Donc, elle a une plateforme, une base de lancement formidable à un moment où les socialistes sont un peu orphelins de tous leurs leaders traditionnels. Donc voilà, je pense qu'elle, c'est un beau coup.
Oui, c'est ça. C'est un buzz, comme on dit, Catherine Ney, j'allais dire parfait et peut-être aussi même parfait timing. C'est vrai qu'il y a personne, ou pour ainsi dire au Parti Socialiste, peu de monde.
Déjà, elle l'avait dit déjà depuis plusieurs mois que peut-être pour la présidentielle, peut-être en 2002, les choses se construisent tranquillement, on verra. Je crois qu'elle ne pense qu'à avoir sa revanche par rapport à 2008, ça c'est sûr. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'elle efface le Parti Socialiste, qu'on n'entend déjà pas. Mais c'est vrai que depuis plusieurs mois, le Parti Socialiste se plaignait parce qu'elle mangeait le temps de parole au CSA. Qu'elle n'a toujours pas convaincu le CSA qu'elle n'appartient plus au PS. Donc déjà,
c'est sa liberté de parole, Ségolène Royal, c'est tout elle.
Mais de toute façon, Ségolène Royal a toujours toutes les libertés, n'a jamais tort, quoi qu'elle fasse, quoi qu'elle dise, elle n'a jamais tort. Regardez par exemple, il y a eu une grosse polémique sur la façon dont elle avait géré la région Poitou-Charentes et celui qui aujourd'hui règne sur la Nouvelle-Aquitaine. Rappelez-moi son nom, c'est le président de la région Aquitaine socialiste.
Ça va nous revenir.
Bon, disait que vraiment c'était géré, mais il n'a pas osé porter plainte, il n'a pas voulu. C'était une collègue en tous les cas. Il s'est plaint de la façon. Bon, eh bien, elle a toujours dit que ça n'était pas vrai. Et en plus, elle a un culot d'enfer. Mais vous savez, moi, je crois que quand on s'appelle Royal, ça doit avoir
une influence.
Elle parle comme une altesse, elle n'a jamais tort. Voilà, ça c'est sûr.
Charles Villeneuve. Alors du coup, c'est peut-être dangereux pour Emmanuel Macron d'avoir libéré entre guillemets Ségolène Royal. C'est peut-être pas le bon calcul de l'avoir sortie comme ça des pôles.
Non, mais elle sait déjà depuis 2 mois que de toute façon ses heures sont comptées. Elle le sait depuis 2 mois parce que d'ailleurs ici on en avait parlé. Je me souviens avec Sébastien Krebs largement. Compte tenu du fait qu'elle ne remplissait pas, c'était des remarques, des rapports qui avaient été faits, ses obligations d'ambassadrice des deux pôles. Il ne faut pas oublier que la France est la deuxième puissance mondiale maritime du monde, à peine derrière les États-Unis, et que les enjeux maritimes et les enjeux de recherche et d'exploitation technologique de la mer sont stratégiquement très importants. Cela étant, moi je nuancerai une chose, c'est que compte tenu du fait que, de toute façon, c'est un emploi bénévole, elle n'a pas le même degré de contrainte qu'un ambassadeur en poste. Et d'ailleurs, son prédécesseur, Michel Rocard, ne s'est pas privé non plus de critiquer le gouvernement alors qu'il était ambassadeur des deux pôles.
Cela étant, Michel Rocard...
Là, je ne suis pas d'accord. Là, je suis pas d'accord. J'en ai parlé avec Rocard à plusieurs reprises. Mmh. Moi, c'était un ami à moi et je sais qu'il s'est abstenu. Il a, on ne peut pas dire qu'il a critiqué les présidents de la
pas
politique
de façon
des présidents.
Pas de façon systématique.
Tu peux peut-être retrouver une fois ou deux, je ne sais
oui.
pas.
Je les ai retrouvés.
Mais
oui.
il n'a pas fait...
Il aimait
Ségolène
deux, trois
Royal,
réserves.
Il n'est pas allé avec le dos
oui.
de la cuillère.
Mais si je pouvais continuer...
Oui, d'accord.
Ça m'arrive... il n'est jamais allé aussi loin, je suis d'accord, que Ségolène Royal, puisqu'il a remis complètement en question, elle a remis complètement en question le rôle même du président de la République, dont elle disait qu'on ne sait pas s'il va finalement pas profiter de sa place, notamment d'ancien banquier, pour exploiter
c'est
des fonds
le...
et gagner de l'argent.
C'est peut-être le tweet qui a fait le plus
c'est
mal.
C'est ça la goutte d'eau. Mais cela étant, elle a, moi je trouve qu'elle a montré... Allez. Par ses excès, qu'elle était toujours là, par des critiques fortes, et qu'elle profite du fait qu'il n'y a pas d'alternative socialiste, ou en tout cas très peu, et notamment l'entrée dans l'atmosphère qui est plutôt assez ratée sur le plan politique, de Cazeneuve, dont on pensait qu'il pouvait être l'un des leaders.
Donc on y retourne sur sa popularité aussi dans une petite seconde avec vous les grandes voix.
Votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy, c'est tous les jours jusqu'à 20h sur Europe 1. La suite de votre grand journal du soir sur Europe avec le débat des grandes voix qui continue même pendant les pauses avec Nathalie Lévy et autour de vous ce soir Nathalie, Catherine Ney, Charles Villeneuve et Gérard Carrero et toutes vos questions en direct, n'hésitez pas, 3921 et Twitter, hashtag Europe 1.
Allez, on se reparle les grandes voix quelques instants avant d'aller sur évidemment la réforme des retraites vue par les avocats. On se reparle un instant de Ségolène Royal, fin anticipée de la mission d'ambassadrice des pôles là incessamment. Le gouvernement a justifié son limogeage, elle s'est exprimée aussi sur Facebook. D'un mot Gérard Carrérou, parce qu'on en parlait en off tous les trois, elle a une place à part sur l'échiquier politique, elle est appréciée des Français, cinquième toujours au tableau de bord IFOP Paris Match, et Charles Villeneuve nous disait elle est dans le bon timing, elle coche pas mal de cases, Ségolène Royal.
Oui,
hein.
Puis elle a quand même, regardez, elle a quand même inventé quelque chose qui a fait Flores, qui a été repris par beaucoup d'autres politiques, c'est cette idée de la démocratie participative, qui était un des éléments forts de sa campagne face à Sarkozy de 2007. Ben aujourd'hui, c'est devenu... Tout le monde parle de démocratie.
Et en fait, même, sur l'écologie, Emmanuel Macron la semaine dernière,
Macron
et sur les policiers...
Fait, etc. C'est devenu quelque chose... Bon, mais il y a dans d'autres domaines, elle a du flair. Elle a beaucoup de culot, on peut lui faire énormément de reproches. Mais elle a un flair politique, par exemple sur la crise des Gilets jaunes au début, sur le pétrole, sur le prix de l'essence, elle l'avait senti venir. Bon, ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont du nez.
Mais parce qu'il faut le reconnaître qu'elle est souvent au contact de la base.
Du terrain, exactement.
En permanence, ce qui n'est pas le cas de la plupart des autres leaders.
Sa grande singularité, c'est que c'est vrai qu'elle privilégie d'abord son intérêt personnel, mais quand de temps en temps...
Elle n'est pas la seule.
Mais de temps en temps, ça s'aligne avec l'intérêt général, mais là, on s'aperçoit qu'elle est assez formidable.
Mais attendez,
et qu'elle propose des choses que rares...
C'est vrai. Elle a du nez, elle a sa liberté de parole, elle a du cran, etc., et des idées, mais elle est aussi là depuis les années 80. Elle était déjà ministre. Alors,
oui,
ça ne fait pas très
monde.
Nouveau monde.
Oui,
voilà.
C'est l'ancien monde. Oui.
Alors, c'est quand même pas très nouveau monde, tout ça.
Non.
Même si le combat,
mais
elle est là, inlassablement, en train de le mener.
Êtes-vous sûr, êtes-vous certaine que l'ancien monde soit totalement mort.
Ah, mais moi je suis certaine de rien, je suis même pétrie de doutes. C'est bien pour ça que je vous pose des questions à vous.
Moi je suis comme vous.
Non, et puis quand on la voit, je veux dire, moi je trouve qu'elle se tient physiquement très
bien. Très bien.
Et je veux dire, elle ne fait pas vieux monde, quoi. Elle est toujours.
Bon ben voilà, on suivra cet épisode, feuilleton autour de Ségolène Royal.
C'est pas encore une vieille pause.
Oui, non mais j'ai entendu, simplement je voudrais quand même dire une chose. J'ai entendu une grande méchanceté d'un de nos confrères ce matin. J'ai entendu une grande méchanceté qui était, et je la reprends en même temps, je trouve que c'est trop méchant. Oui. Il a dit, ben finalement elle s'occupait du pôle Nord et du pôle Sud, maintenant elle va aller à Pôle
Emploi.
Ça c'est méchant,
chez nos
parce que c'est pas vrai.
Mais non, elle a deux retraites, très confortables.
Non mais je veux dire, elle ne touchait pas de salaire, parce qu'il faut le dire. Pour les gens, elle ne touchait pas de salaire, elle touchait 100 000 euros d'indemnité et trois collaborateurs pour s'occuper. Elle n'a pas de salaire.
Non. Elle ne touche pas 100 000 euros d'indemnité, elle a 100 000 euros
de budget pour ses frais de mission.
Collaboratrices.
Tout à fait.
Et elle-même, quand elle se déplace, dans le cadre de son rôle
d'ambassadeur et non pas pour la promotion
pôles.
De son livre. Voilà. Par exemple,
elle a à la fois, elle est rémunérée, elle a depuis 2017 sa retraite d'ex-première conseillère des tribunaux administratifs c'est environ 4000 euros brut mensuels, plus sa retraite d'ancien parlementaire de 7000 euros.
Ça fait 11 000.
On a fait les comptes, on a fait les totaux, on s'arrête là pour Ségolène Royal, on va aller sur la retraite des avocats. Ils sont toujours très remontés, mais ils ont peut-être obtenu quelque chose. Là, on en parle dans un instant.
Votre grand journal du soir, c'est jusqu'à 20h. C'est tous les jours avec Nathalie Lévy sur Europe 1. La suite de votre grand journal du soir sur Europe avec jusqu'à 19h le débat des grandes voix. Ce soir, autour de vous, Nathalie Lévy, Catherine Ney, Charles Villeneuve et Gérard Carrérou.
Face à la réforme des retraites, les avocats continuent leur grève. Un mouvement sans précédent. Gaëlle nous appelle depuis Paris. Bonsoir Gaëlle.
Oui, bonsoir Nathalie, bonsoir les grandes voix.
Vous êtes vous-même avocat et on a vu, Nicole Bénoulé, on a eu des annonces aujourd'hui. Maintien d'une caisse propre pour vous, les avocats, dans ce cadre du régime universel. Que répondez-vous ?
Alors tout d'abord, je réponds que moi je suis un avocat qui défend le principe d'une réforme des retraites. Je suis pour un régime universel. Je ne suis pas tout à fait sur le même axe que Madame Christiane Ferrachoul qui représente le CNB. Simplement, ce que je trouve très dommageable dans cette réforme, c'est que nous, en tant que profession libérale, nous allons connaître une augmentation, voire une explosion de nos charges sociales, puisque par définition, nos charges seraient amenées à doubler, alors même qu'aujourd'hui, nous avons une caisse qui effectivement fait du bénéfice et finance d'autres caisses qui sont déficitaires. Donc je pense que le cœur de la grève que vous pouvez aujourd'hui commenter, c'est effectivement le fait que les charges sociales pour de nombreux confrères, et notamment les confrères qui gagnent, j'allais dire, en dessous de 40 000 euros de bénéfices non commerciaux, donc on ne parle même pas de salaire net, ça peut mettre leur activité en très très grande difficulté. Donc ça, c'est très très important qu'effectivement ce soit pris en compte. Et quand on lit le courrier de Madame la garde des Sceaux, ce qu'on comprend, c'est qu'elle nous dit, vous allez avoir une pension annuelle supérieure à 20% si on adopte le régime universel. Sauf que aujourd'hui, aucun outil ne permet à n'importe qui, d'ailleurs qu'on soit avocat ou qu'on soit infirmier ou qu'on soit salarié, de savoir si vraiment on va y gagner ou pas à cette réforme. Je crois que c'est vraiment le nœud d'aujourd'hui de ce mécontentement.
Alors Gaël, Charles Villeneuve veut vous poser une petite question, si vous permettez Gaël. Alors Charles Villeneuve, allez-y.
Oui, maître. Vous payez déjà des cotisations, comme toutes les professions indépendantes et libérales, assez importantes, puisque je crois que vous avez 33% de charges avant impôt, sans compter la TVA. Et là, vous nous dites que ça va doubler ?
Oui, puisqu'aujourd'hui, on est à peu près à 14% pour les cotisations retraite et elles passeraient à 28%. Voilà exactement le doublement. Par ailleurs, en ce qui concerne nos charges sociales, on est plus proche des 40% que des 33% que vous venez de citer, hors TVA. Je vous rappelle par ailleurs qu'avec la réforme de la CSG, on a d'ailleurs connu une augmentation, alors vous allez dire c'est pas beaucoup, mais 1,8% d'augmentation de CSG il y a à peu près 2 ans. Bon, je crois que les professions libérales ont pendant longtemps été muettes. Aujourd'hui, je crois que le mouvement il est général au sein de la profession parce que je pense qu'il y a un ras-le-bol un petit peu collectif. Après, je pense que là où il faut quand même raison garder, c'est qu'il faut effectivement réformer ces retraites, ces régimes et arriver à quelque chose de plus équitable pour l'ensemble des Français. La seule chose aujourd'hui, le vrai problème que nous avons, c'est un problème de transparence du gouvernement parce que je peux vous dire, moi j'ai jeté un œil au projet de loi et c'est quand même mon métier que de regarder des lois. Vous êtes incapable de savoir si avant ou après cette réforme, vous êtes gagnant par rapport à ce que vous allez cotiser ou ce que vous cotisez actuellement. Et ça, c'est le vrai problème de la réforme.
Une dernière question. Vous avez dans votre caisse autonome des avocats 2 milliards de réserves, c'est ça ?
Tout à fait, parce qu'aujourd'hui, vous savez qu'en termes de démographie, les avocats, aujourd'hui, vous avez à peu près 2000 nouveaux avocats qui arrivent dans la profession, donc qui par an, qui donc d'ailleurs vont cotiser, etc. Alors vous avez très très peu de retraités. Donc c'est ce qui explique, la bonne santé financière de notre caisse. Moi, par contre, je suis un petit peu là de l'avis du gouvernement, qui est de dire que à l'horizon 30 ou 40 ans, alors c'est pas demain, certes, on aura probablement une démographie de la profession qui sera plus proche de la démographie, j'allais dire, de l'ensemble des Français. Donc qui fera que peut-être nos réserves fondront d'ici là.
Alors, merci beaucoup Gaëlle, et on va garder votre numéro précieusement. Vous viendrez volontiers dans les grandes voies quand on consacrera, et on le fait évidemment, un grand plateau comme ça sur les avocats ou sur d'autres sujets. Merci beaucoup Gaëlle.
Je vous remercie beaucoup, à bientôt.
Oui, alors, j'ai une remarque à faire. J'ai pas de question, mais j'ai une remarque à faire. Moi, je suis content pour les avocats s'ils ont obtenu de garder leur caisse. Mais ça veut dire que nous allons passer simplement au 13e régime dérogatoire depuis le début des négociations. Nous avions le régime dérogatoire pour les militaires, le régime dérogatoire pour les policiers, pour le régime dérogatoire pour les pompiers, pour les danseurs de l'opéra, pour les cheminots de la SNCF qui ont gardé pendant 40 ans un régime dérogatoire, etc. Du coup, il n'y aura dans le régime universel que ceux qui y étaient déjà, c'est-à-dire, bien évidemment, il faut dire les choses à un moment donné, les salariés du privé, les salariés du privé.
De dresser un bilan, que reste-t-il des ambitions?
Moi, je trouve que quand même dans la proposition de Mme Belloubet, c'est presque un oxymore. C'est-à-dire, quand elle dit qu'il y a un maintien de la caisse, mais dans un régime universel, ça veut dire que la caisse qui est excédentaire des avocats va participer au paiement des retraites des autres. Ça veut dire qu'ils ne maîtriseront plus... Parce qu'on dit que ce n'était pas un régime spécial, les avocats.
Non.
C'était une caisse autonome où ceux qui cotisaient à 100% pour la caisse, tandis que dans le régime, dans les autres régimes, le libéral ou le salarié le salarié quand il est dans la fonction publique ou autre, c'est soit il cotise à 40% et c'est soit l'employeur, soit l'État qui payait le reste.
Et d'ailleurs, ils ont bien vu l'entourloupe. Oui. Hein,
donc là, ils voient les entourloupes et là, ils savent qu'ils vont beaucoup y perdre.
Mais c'est l'inverse, justement, ce que tu viens de dire. Je crois qu'on est bien d'accord. C'est-à-dire que l'État ne participe
en rien,
alimenter cette caisse.
Mais pas du tout.
C'est toute la profession qui alimente cette caisse et qui cotise de manière très importante.
C'est ça.
Deux fois plus quasiment que toutes les autres
donc
professions.
Donc, ce n'est pas avec ça qu'on va calmer le jeu du côté de la colère des avocats. Ils sont 40% des barreaux français, dont celui de Paris, hein, qui continue aujourd'hui à poursuivre le mouvement. Merci beaucoup, les grandes voix. Merci à vous.
Europe 1.
À suivre, Nathalie Lévy dans votre grand journal du soir.
Un nouveau journal complet, celui de Sébastien Krebs, avec 9 millions de crédits d'impôt. 9 millions de foyers, pas de crédits d'impôt, qui ont eu la bonne surprise ce matin déjà.
Votre grand journal du soir, c'est avec Nathalie Lévy. C'est tous les jours jusqu'à 20h sur Europe 1. Vous écoutez votre grand journal du soir sur Europe 1 jusqu'à 20h. La suite du programme pour la prochaine heure, Nathalie.
L'interview politique, c'est 19h10 sur Europe 1. Aurélie Herbemont qui reçoit Amélie de Montchalin, secrétaire d'État en charge des affaires européennes. Elle réagira bien sûr à l'éviction de Ségolène Royal. Demain en France, demain dans le monde, demain dans nos vies, c'est 19h20 à ne pas manquer. Et puis 19h30 et jusqu'à 20h, ici même, avec nous dans ce studio, Mathieu Madénian de retour sur les planches dès vendredi pour son nouveau spectacle spécial familial. On a plein de sujets à aborder avec lui, plein de questions à lui poser. Et appelez-nous aussi au 3921.
Bah oui, si vous avez envie de parler à Mathieu Madénian, vous pouvez lui poser toutes vos questions également sur Twitter avec le hashtag Europe 1 et au 3921, c'est le standard pour passer en direct. Nathalie Lévy et Sébastien Krebs sur Europe 1. Très belle fin de journée, il est 19h.
Ça fait partie des critiques un peu politiciennes. Mais ce qui est important, c'est que si je me suis défendue, c'est parce que je ne peux pas laisser abîmer le travail des équipes.
Voilà ce que disait Ségolène Royal sur Europe 1 le 2 décembre dernier. Sa ligne de défense, cette fois, elle l'exprime sur Facebook ce soir, alors qu'une enquête judiciaire est ouverte sur l'utilisation de ses moyens d'ambassadrice d'épaule.
Un virement des impôts, 9 millions de foyers concernés. Depuis ce matin, c'est le versement d'une avance sur le crédit d'impôt lié aux emplois à domicile notamment.
Dans ce journal également le procès en destitution de Donald Trump qui se dessine. Et puis le retour de Valérie Le Mercier au cinéma dans une comédie. Mathieu Charrier nous raconte, il vient de voir le film à l'Alpe d'Huez.
Et du côté du ciel, Anissa?
C'est assez simple pour demain. Du gris au nord, du gris au bord de la Méditerranée, beaucoup de vent et de pluie en Bretagne et du soleil partout ailleurs. Tous les détails à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Nathalie Lévy, Sébastien Krebs.
Ségolène Royal a choisi les réseaux sociaux pour répondre aux accusations. Mais c'est devant les enquêteurs du parquet national financier qu'elle devra surtout se défendre. Enquête ouverte depuis le mois de novembre sur l'utilisation de ses moyens d'ambassadrice d'épaule. Claudia Bertram. Par écrit, donc, ce soir, Ségolène Royal répond point par point.
Oui, et d'abord, elle précise que l'enquête est parfaitement légitime dans une démocratie où la transparence sur l'utilisation des fonds publics est de rigueur. Avant de reprendre, comme vous l'avez dit, une à une les allégations, d'abord, elle affirme qu'une seule absence au Conseil de l'Arctique a pu être justifiée par ses accusateurs sur 12 initialement avancés. Ensuite, sur la promotion de son livre, l'ex-dirigeante socialiste assure que les frais de déplacement ont été pris en charge par les éditions Fayard, lettre du PDG à la pluie. Ses collaborateurs pour sa mission d'ambassadrice d'épaule ont bien participé à des dédicaces, mais sur leur congé, affirme-t-elle. Enfin, sur l'enveloppe de 100 000 euros pour ses frais de mission, Ségolène Royal dément ce montant et assure qu'un double contrôle est effectué. Les règles de rigueur qui s'imposent ont été parfaitement respectées, conclut-elle. Et un de ses proches d'ajouter que cette enquête du PNF ne change rien du tout à ses ambitions.
Claudia Bertram du service politique. Et sans attendre le résultat de cette enquête, le gouvernement pourrait mettre fin aux fonctions de Ségolène Royal en Conseil des ministres. Ce serait dès la semaine prochaine.
Le gouvernement qui était réuni aujourd'hui en séminaire pour évoquer la suite du calendrier 2020 sur le climat, la sécurité, les hôpitaux. Quant à la grève à la RATP et à la SNCF, elle n'a que trop duré, a lancé le Premier ministre Édouard Philippe.
Pour demain, les prévisions confirment l'amélioration du trafic. 90% des TGV en circulation, 80% des TER, les trois quarts des transiliens. Et à la RATP, toutes les lignes de métro ouvriront.
Regardez bien vos comptes. Vous avez peut-être reçu dès ce matin un virement des impôts. 9 millions de foyers sont concernés. Aurélien Fleureau, c'est une avance en fait sur les crédits d'impôts qui s'appliquent notamment aux emplois à domicile.
Oui, depuis ce matin, vous êtes déjà nombreux à avoir reçu de l'argent sur votre compte de la part des impôts. Ce n'est pas tous les jours que ça arrive. Il s'agit donc d'une avance qui correspond à 60% du montant total des réductions et crédits d'impôts dont vous pourrez bénéficier au titre de vos dépenses de 2018 déclarées au printemps 2019. Alors cela concerne principalement les frais de garde d'enfants, l'emploi d'un salarié à domicile, mais aussi les dons ou encore des frais d'hébergement en EHPAD. C'est donc une avance de trésorerie pour ne pas être pénalisé par le prélèvement à la source. C'est la deuxième année que ce dispositif est mis en place. Il y aura ensuite l'été prochain une régularisation qui prendra en compte cette fois la déclaration de vos revenus 2019. Vous recevrez alors le solde de votre crédit d'impôt, les 40% restants, ou si votre situation a évolué, eh bien là, vous devrez rembourser un éventuel trop-perçu.
Aurélien Fleureau du service économie d'Europe. Et puis autre question qui concerne vos finances. Quel sera le taux du livret A? Le gouvernement doit décider dans les heures qui viennent. Ce taux pourrait baisser à 0,5%. Cybercy s'en tient à la méthode de calcul prévue. Réponse et explication demain matin. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, invité de la matinale d'Europe 1, 8h15 avec Mathieu Belliard et Sonia Mabrouk.
Attention, l'épidémie de grippe est là, et bien là. Elle frappe désormais deux régions. Seuil dépassé en Île-de-France et en PACA. Les autres devraient suivre. La grippe cette année qui a déjà fait 11 victimes.
À Washington, Donald Trump salue un accord historique, accord signé à la Maison-Blanche avec le vice-premier ministre chinois et qui doit suspendre provisoirement la guerre commerciale. Malgré tout, la Maison-Blanche annonce que les tarifs douaniers visant la Chine seront maintenus jusqu'à une deuxième phase de l'accord.
Et Donald Trump donc avec Xavier Yvon dans quelques instants.
Oui, qui annonce déjà une arnaque, Donald Trump. Ça y est, son procès en destitution devrait commencer mardi. Xavier Yvon, une nouvelle étape est en train de se jouer ce soir avec la transmission au sénateur de l'acte d'accusation.
Exactement, c'est ce que va voter dans quelques instants la Chambre des représentants à majorité démocrate. C'est elle qui a mis en accusation Donald Trump le mois dernier en retenant contre lui deux chefs d'inculpation, abus de pouvoir et entrave au Congrès. Ces articles d'impeachment, comme on les appelle ici, vont désormais être transmis officiellement au Sénat, qui lui est chargé d'organiser le procès en destitution du président. Cette transmission, c'est une partie de la procédure très solennelle. Les élus de la Chambre vont apporter physiquement le dossier d'accusation du président à leurs collègues du Sénat. De l'autre côté du Capitole, ils vont traverser le bâtiment en procession en passant sous la fameuse coupole. Le Sénat ensuite devrait ouvrir le procès de Donald Trump mardi prochain. 7 élus démocrates de la Chambre serviront de procureurs. Les 100 sénateurs joueront, eux, le rôle des jurés. Il faut 2/3 des votes pour démettre un président. Alors autant dire que le risque de destitution pour Donald Trump est quasi nul avec la majorité républicaine au Sénat. Mais le déroulé du procès reste incertain. Y aura-t-il des témoins appelés à déposer avec d'éventuelles nouvelles révélations? Les démocrates le souhaitent. Pas les républicains qui, eux, veulent en finir le plus vite possible.
Xavier Yvon en direct, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis.
Et tout à fait autre ambiance. Maintenant, on file à l'Alpe d'Huez, festival de la comédie.
Mathieu Charrier, vous sortez tout juste du cinéma. Vous venez de voir un film qui vous a emballé. C'est la prochaine comédie dans laquelle on va retrouver Valérie Lemercier. Son titre, Forte.
Exactement, Valérie Lemercier, figurez-vous qu'elle y joue une prof de pole dance, vous savez ces danses là autour des barres de fer. Alors, je vais vous expliquer, en fait le film il est écrit à contre-emploi, le film est écrit par Mela Bédia. Vous savez Mela Bédia c'est la sœur de Ramzy, du duo Eric et Ramzy qu'on connaît bien, et elle raconte en fait son histoire et son complexe dans ce film, parce qu'elle s'y prénomme Nour, c'est une jeune fille qui a 20 kilos de trop, un bonnet en guise de coupe de cheveux, puis un jogging comme tenue de tous les jours, évidemment avec les garçons c'est pas la fête. Et quand elle découvre que la nouvelle copine de son ex est experte en pole dance, et elle décide donc de s'y mettre elle aussi, malgré ses kilos, et avec donc cette prof hyper bienveillante jouée par Valérie Lemercier. Sa meilleure amie dans le film, c'est Alison Wheeler. Et je peux vous dire que ça donne une comédie très tendre sur ce mal-être des jeunes femmes, notamment quand elles sont en surpoids. C'est bien joué, c'est bien réalisé, c'est drôle, c'est sociétal. Bref, c'est vraiment les comédies comme on les aime et qu'on aime découvrir ici à l'Alpe d'Huez. Force sortira donc le 18 mars. Et puis dans une heure, C'est Michèle Larocque qui présente son nouveau film qui s'appelle Chacun chez soi, dans lequel elle joue aux côtés de Stéphane De Groot. Alors lui, il vient de quitter son boulot et il s'est pris de passion pour les bonsaïs, vous savez, les petits arbustes. Ils prennent de plus en plus de place dans leur couple et évidemment, ça promet un film à minima surprenant. On verra ce qu'en pense le public. Vous savez, ici, c'est un festival de public. Il y a 1300 personnes dans la salle et donc je peux vous dire que dès que le générique commence, on sait si le film leur a plu.
Stéphane De Groot et les bonsaïs, ça promet. Donc chacun chez soi le 22 avril. Et forte donc le 18 mars en salle. Mathieu Charrier depuis l'Alpe d'Huez en direct. Le football ce soir, le PSG qui retrouve Monaco en Ligue 1. Coup d'envoi à 21h. Et puis deux matchs qui viennent tout juste de débuter. Amiens-Reims et Nîmes-Rennes 0-0 pour l'instant.
Et vous Sébastien, de retour à 19h30.
À tout à l'heure.
Et Anissa nous dit que des nuages s'installent au nord et au sud demain.
Oui, effectivement, Nathalie, sur un bon tiers nord, en Normandie, Centre-Val-de-Loire, bassin parisien, sur les Ardennes, le Val-de-Saône et l'Alsace. Et puis, le long de la Méditerranée, hein, le Var, les Cévennes, les Bouches-du-Rhône, jusqu'à la Côte d'Azur. Demain, c'est très, très gris. Les nuages sont très nombreux et assez épais. Alors, au fil de la journée, sur le nord, ça va se dégager. Entre ces deux parties de la France, la journée commence sous un ciel très ensoleillé. Il fait très beau demain sur le reste de la France. Attention, en Bretagne, une nouvelle perturbation sur la pointe bretonne arrive avec des pluies soutenues dans l'après-midi accompagnées de vents assez violents jusqu'à 110 km/h sur les côtes, 80 km/h dans les terres. Les températures, elles sont très douces. Pour un 16 janvier, demain, nous aurons 0 à Annecy, 4 à Lille et Strasbourg, 6 pour Paris. Dans l'après-midi, 10 à 18 degrés.
Europe 1.
À la suite de votre grand journal du soir, Nathalie Lévy.
Avec vous, Aurélie Herbemont, bonsoir.
Bonsoir.
Et votre invitée ce soir, dans ce
Amélie
studio.
De Montchalin, secrétaire d'État aux affaires européennes. L'exécutif a-t-il raison d'entrer en guerre avec Ségolène Royal? On en parle avec elle.
L'interview d'Aurélie Herbemont, c'est dans un instant sur Europe 1, dans votre grand journal du soir. Votre grand journal du soir se poursuit sur Europe 1. Nathalie Lévy, tout de suite place à l'interview politique.
Aurélie Herbemont, votre invitée ce soir, Amélie de Montchalin, secrétaire d'État en charge des affaires européennes.
Bonsoir Amélie de Montchalin.
Bonsoir.
La diplomatie est une mission, la politique en est une autre. C'est ce qu'a dit Édouard Philippe à propos de Ségolène Royal. Ses critiques contre le gouvernement la disqualifient pour rester ambassadrice au pôle.
Bon, déjà, il faut rappeler le métier d'un ambassadeur. Des ambassadeurs dans nos différents pays partenaires à travers le monde, et des ambassadeurs thématiques sur l'environnement, le droit des femmes.
Comme Ségolène Royal.
Comme Ségolène Royal. Ces ambassadeurs, ils ont accepté une mission. Une mission difficile. Je travaille quotidiennement avec nos ambassadeurs dans toute l'Union européenne. Leur mission, c'est de porter pour nous, à l'étranger, notre cap, nos priorités, ce que la France veut défendre dans le monde. Et ça impose, comme à tous les fonctionnaires, un devoir de réserve. C'est-à-dire que quand on fait ce métier-là, on n'est pas l'ambassadeur du président, on n'est pas l'ambassadeur d'un homme ou d'une femme politique, que ce soit mes ambassadeurs par exemple, mais ils viennent d'ailleurs tous les ans, à la fin du mois d'août, à la conférence des ambassadeurs, ils reçoivent des instructions et c'est leur feuille de route, c'est ça qu'ils ont à défendre. Dans ces ambassadeurs, il y en a qui ont été anciens ministres.
Oui.
Catherine Colonna, Jean-Pierre Jouyet, ils sont aujourd'hui ambassadeurs, ils ont été anciens ministres, ils ont fait de la politique, aujourd'hui ils sont ambassadeurs, c'est-à-dire qu'ils acceptent un devoir de réserve, ils portent la voix de la France, ils négocient. Et donc il y a au fond deux métiers, il y a une mission qui est celle diplomatique, il y a un autre métier, une autre activité, qui est la politique. Et donc,
c'est incompatible.
Ce qu'on dit, c'est que Mme Royal peut faire bien sûr ce qu'elle veut, au sens où elle a le choix. Soit elle reste dans ses fonctions de diplomate, d'ambassadrice, et donc elle est tenue à un certain nombre d'engagements, comme tous les fonctionnaires de notre pays. Soit elle veut faire de la politique, et c'est son droit. Mais dans ce cas-là, eh bien, elle doit choisir.
Ses amis disent en off, comme on dit, que quand au printemps, elle disait du bien de la tribune européenne d'Emmanuel Macron, personne ne lui a rien dit, ça gênait personne.
Mais parce que l'engagement européen est un engagement du Quai d'Orsay. Tous les ambassadeurs dans le monde entier défendent une vision européenne. Et on leur demande d'ailleurs de montrer la valeur ajoutée, ce que fait l'Europe pour la paix, pour le multilatéralisme, pour le règlement des conflits quand ils sont en dehors de l'Union européenne. Donc, vous voyez, il faut juste remettre les choses dans l'ordre. Je crois que les Français ont très bien compris que certains avaient un rôle, que d'autres en ont un autre, qu'on peut faire plein de choses dans une vie, mais qu'il faut juste choisir.
Le parquet national financier aujourd'hui fait savoir qu'il a ouvert une enquête concernant l'utilisation des moyens mis à sa disposition. Est-ce qu'au Quai d'Orsay, vous avez des doutes sur la réalité de ces travaux comme ambassadrice?
Alors, le parquet par définition, dans notre pays, est une instance indépendante. Il ouvre les enquêtes qu'il souhaite. Moi, je n'ai pas d'éléments à apporter ce soir. D'ailleurs, vous imaginez bien que ce n'est pas mon métier, ce soir, d'aller commenter ce genre d'affaires.
Mais vous savez, au Quai d'Orsay, quand même, si vous vous interrogez, parce que ça avait fait l'objet de révélations de presse...
Il se trouve que, personnellement, moi, ministre, secrétaire d'État, chargé d'affaires européennes, je n'ai, sur ce sujet, rien à dire.
Alors, en la limogeant, puisqu'au final, ça va finir comme ça, est-ce que vous risquez pas de faire de Ségolène Royal une candidate toute trouvée pour la gauche pour 2022 ? Ses amis vous diront que vous voulez la faire taire, qu'elle dérange.
Il n'y a pas de complot, il n'y a pas de cabale politique, il y a juste des principes. Nos ambassadeurs sont des gens, je le rappelle, qui font un métier à la fois formidable et très difficile. Et ils savent où ils habitent, ils savent ce qu'est leur mission. Leur mission, c'est de porter la voix de la France, c'est de porter nos priorités communes, collectives, et donc que chacun respecte eh bien, le cadre de sa mission. Vous savez, la politique, moi j'ai été élue, quand on est élu, on a des droits, on a des devoirs, ils sont différents de quand on est diplomate.
Ségolène Royal est très critique sur les retraites. Les retraites, on sent que le gouvernement a envie d'en sortir. Aujourd'hui, vous aviez un séminaire, tout le gouvernement, à l'Élysée pour lancer des nouveaux chantiers. Mais est-ce que vous pensez vraiment pouvoir être audible sur de futurs chantiers alors qu'on est toujours dans la grève, même si les transports, ça s'améliore? Vous pensez vraiment pouvoir dire « allez, parlons d'autre chose » ?
Le sujet, ce n'est pas d'esquiver. Le sujet, c'est de transformer en profondeur notre pays, pas parce qu'on aurait une réformite, vous savez, pas parce qu'on aurait envie de faire des réformes pour faire des réformes, parce qu'on a pris un engagement devant les Français qui est de transformer leur vie quotidienne là où ils sont. Et donc, avec le président de la République, avec le Premier ministre, on est très clair. On a encore beaucoup de choses à faire sur l'écologie. On a encore beaucoup de choses à faire sur les sujets régaliens, migratoires, de sécurité, de lutte contre le communautarisme. On a encore beaucoup de choses à faire sur l'Europe. Pas parce qu'on veut, vous voyez, non plus faire des poignées de main et dire qu'on est des grands diplomates, là non plus. On veut faire des choses concrètes. Sur l'écologie, je l'ai dit, sur les sujets, par exemple, de convergence sociale en Europe. Hier, la Commission européenne met sur la table une proposition pour avoir un SMIC dans tous les pays européens et arrêter le dumping social.
Mais qui voilà, était une proposition de la liste Renaissance, liste soutenue par Emmanuel Macron.
Comme toujours, on a depuis 2 ans et demi, par exemple, sur les sujets qui sont les miens, travaillé à une cohérence. Que ce que nous disent les Français, on s'en occupe en France et on s'en occupe au niveau européen, parce qu'à la fin, c'est pour eux qu'on travaille. Et donc la discussion de ce matin, ce n'est pas de savoir si on est audible ou pas audible. Ce n'est pas une question de savoir ce qui, vous voyez, passe le mur du son. C'est comment sur le terrain, partout, les Français voient qu'ils ont des services publics, ils ont plus de choix, ils ont plus accès à la formation, il y a moins de chômage, ils ont plus de travail. Bref, qu'on s'occupe de leur vie quotidienne.
Tant qu'on n'a pas le financement de la réforme des retraites, c'est compliqué quand même de dire on va parler d'autre chose et puis
non,
ça on verra plus
tard. On va parler des retraites, on va parler des hôpitaux, on va parler des services publics, on va parler de comment dans nos territoires on recrée des emplois, comment on remet de l'industrie dans notre pays, on va parler de tout ça. Mais les retraites, au fond, c'est à la fois un sujet effectivement de comment dans les années qui viennent, on est capable d'assurer à ceux qui ont travaillé la capacité à être accompagnés, d'avoir un revenu, d'avoir une pension. Mais c'est aussi derrière un projet de société, c'est comment on réinvente le travail. Vous voyez bien que la question qui se pose aujourd'hui, c'est que le monde du travail du 21e siècle ne sera en rien le même que celui du 20e siècle. Mmh. Au 20e siècle, on rentrait dans une entreprise et on travaillait pendant 40 ans avec son entreprise et on avait une progression. Aujourd'hui, le travail change parce qu'il y a une révolution numérique, parce que la concurrence a évolué et donc on doit aussi réinventer le travail. Ça veut dire qu'on va avoir plusieurs métiers, ça veut dire qu'on va pouvoir se former tout au long de la vie. C'est pour ça qu'on a un énorme projet et programme très concret de formation. Et donc tout ça, ça va avec. Et donc vous voyez bien que quand on parle des retraites, on parle aussi de formation, on parle aussi de pénibilité, on parle aussi de reconversion, on parle de conditions de travail, on parle de santé au travail. Et donc vous imaginez bien que le gouvernement va pouvoir dire « attendez, on arrête tout ». Et parce que tous les autres problèmes et tous les autres défis, eh bien, ils sont déjà résolus.
Le Brexit, Amélie de Montchalin, vous êtes chargée des affaires européennes. 31 janvier, les Britanniques vont faire leur carton de Bruxelles. Mais en fait, le plus dur va commencer. Il faut négocier la nouvelle relation. Déjà, le divorce avait été un petit peu compliqué à négocier. Ça va être encore plus dur ce qui vous attend là.
Ce qui est certain, c'est que ce qui se passe effectivement pour que les Français comprennent bien le 1er février... C'est qu'il n'y a plus de députés britanniques au Parlement européen, c'est qu'il n'y a plus de commissaires européens et c'est qu'il n'y a plus de ministres britanniques dans les réunions des ministres européens. Bon, c'est une sortie politique. Maintenant, il faut qu'on puisse travailler effectivement à quelque chose qui va être, je pense, difficile. C'est qu'on recrée, qu'on retricote, j'allais dire, une relation sur tous les domaines. Parce qu'avec les Britanniques, on a une relation commerciale, on a une relation de défense, de sécurité, on a une relation, vous savez, culturelle, universitaire, de recherche. Et ce qui compte pour moi, c'est qu'on soit bien clair. Dans cette négociation, on n'est pas pressé. Parce qu'on part.
Boris Johnson voudrait bien que ce soit réglé d'ici la fin de l'année.
Nous, les Européens, nous, les Français, on a conscience d'une chose très importante. On est en train de bâtir le socle, les principes qui vont guider nos relations dans tous les domaines avec les Britanniques pour les 20-30 prochaines années. Et dans ces relations, il faut que ça soit équilibré. C'est-à-dire qu'il faut qu'on protège les intérêts des Français. Parce qu'il faut qu'on puisse leur assurer la sécurité alimentaire, la sécurité de ce qui est importé. Et surtout, si nous, on fait des grandes réformes, si nous, en Europe, par exemple, on veut être neutre en carbone en 2050...
Il faut que les Britanniques le soient aussi.
On ne peut pas, à nos portes, accepter qu'un pays avec qui on a affaire du commerce, comme le rêve Boris Johnson, de manière libre, sans tarifs douaniers, sans volume maximum, sans se demander s'il respecte la neutralité carbone en 2050, s'il respecte, par exemple, qu'on va diminuer, diviser par deux le volume de pesticides qu'on met dans nos propres modes de production, s'il respecte des choses sur la fiscalité, sur les engagements sociaux. Bref, il est hors de question qu'il y ait du dumping. Pourquoi ? Pas parce qu'on est dogmatique sur ce sujet, mais parce que ce sont les intérêts des Français. Et donc, on va avoir un débat. Il y aura des choses sur lesquelles, évidemment, avec les Britanniques, on doit faire plus, fort. Et puis, il y a des choses sur lesquelles, eh bien, on sera aussi fort pour affirmer nos intérêts.
Un tout dernier mot, très bref, car hélas, on va être pris par le temps. Est-ce que vous pensez que tous les Européens vont pouvoir rester unis face à Boris Johnson, sachant que chacun va vouloir défendre ses intérêts ? La France, c'est la pêche. Les Néerlandais, c'est les services.
Tous les Européens ont des intérêts. Pas forcément les mêmes, parce que vous imaginez bien que la pêche concerne plus la France que l'Autriche. Enfin, géographiquement, c'est assez basique ce que je vous dis. Mais ce qui est clair pour tous les Européens, c'est qu'on va faire ça dans la bonne intelligence, sans animosité, mais très clair sur les intérêts communs et individuels que nous défendons dans cette négociation. C'est dans l'intérêt des Européens et je crois que les Britanniques comprendront très bien qu'on le fasse ainsi.
Merci Amélie de Montchalin d'avoir été mon invitée.
Europe 1. À suivre dans votre grand journal du soir, Nathalie Lévy.
Dans un instant, on est demain en France, demain dans le monde. Et puis Mathieu Madénian va s'installer à nos côtés à 19h30. L'humoriste est de retour sur scène.
Vous avez envie de parler à Mathieu Madénian, lui poser toutes vos questions. N'hésitez pas, ça se passe dès maintenant au 3921 et sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Vous écoutez Nathalie Lévy jusqu'à 20h. La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 et tous les jours juste avant 19h30. Europe 1 vous propose de prendre un temps d'avance et de regarder ce qui se passe demain, Nathalie.
Et oui, de regarder vers demain en France, dans le monde et dans nos vies. Alors on commence avec Arthur Mbaché ce soir, donc en France. Bonsoir Arthur.
Bonsoir Nathalie.
Peut-être un nouveau rebondissement dans l'affaire Grégory. Hein. Ça va se passer demain matin à la cour d'appel de Paris. Décision sur l'annulation de la fameuse garde à vue de Muriel Boll. On s'en souvient, le 2 novembre 1984, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, la jeune femme rousse, 15 ans à l'époque, accusait son beau-frère Bernard Laroche du kidnapping du petit Grégory. Hein.
Oui, Bernard, il est innocent. Mon beau-frère, il est innocent. Peut-être que vous avez, Nathalie, en mémoire cette image diffusée, rediffusée depuis 36 ans, la jeune Muriel Boll et ses taches de rousseur devant la maison familiale face aux caméras qui dit l'inverse de ce qu'elle a confié aux gendarmes 4 jours plus tôt. Face aux militaires en garde à vue, elle avait accusé Laroche de l'enlèvement de l'enfant. Bernard Laroche, rappelons-le, assassiné quelques mois plus tard par le père du petit Grégory. Il y a bientôt 3 ans, rebondissement dans l'affaire 2017, mise en examen du couple Jacob et de Muriel Boll. Ça fait pchit au final, mais ça donne une idée aux avocats de Muriel, la QPC qui n'existait pas à l'époque. Question prioritaire de constitutionnalité pour se débarrasser de ce sparadrap du capitaine Haddock, essayer d'obtenir que la fameuse garde à vue soit déclarée inconstitutionnelle et donc disparaisse enfin du dossier. L'argument, la manière de mener des interrogatoires dans les années 80 et surtout avec des mineurs ne respectait pas la Constitution. Reste qu'avant de se rétracter, Muriel avait eu le temps de donner une deuxième fois la version qui accuse Laroche, cette fois non pas à des gendarmes, mais dans le bureau du juge. On verra demain si la cour d'appel retire un peu, beaucoup ou aucune des déclarations de l'accusatrice repentie.
On suivra ça de très près hein, demain, puisqu'on sera fixé. Arthur Mbaché, on viendra vous voir, correspondant Europe 1 dans l'Est de la France. Merci à vous. On s'éloigne un peu demain dans le monde. Bonsoir Rémi Botsaron.
Bonsoir.
On file en Russie avec vous, la Russie qui a changé aujourd'hui de Premier ministre. C'est une surprise. Dimitri Medvedev a démissionné juste après l'annonce par Vladimir Poutine d'une réforme de la Constitution.
Et oui, Poutine qui prépare manifestement l'avenir. Il vient de nommer à la place de Medvedev un certain Mikhail Mishustin, inconnu du grand public. Hein, c'est l'ancien patron du fisc en Russie. Mais ce n'est pas l'essentiel. Ce qu'il faut voir, c'est la manœuvre du président dans un contexte de contestation populaire très forte ces derniers mois. Ce qu'il a annoncé, ce sont des mesures censées changer le système russe. Il dit qu'une demande de changement a clairement émergé au sein de la société et il annonce principalement une chose. Désormais, si les Russes votent en faveur de ces mesures, ce n'est plus le président, mais la Douma, le Parlement, qui choisira le Premier ministre.
Et ça va changer quoi? Ça va changer beaucoup de choses, ça?
Eh bien, dans la mesure où le Parlement est aujourd'hui totalement acquis à Poutine, a priori, ce n'est pas une révolution. Et même si le président propose aussi de renforcer le pouvoir du Conseil d'État, le pouvoir des gouverneurs régionaux, il l'a bien rappelé aussi, la Russie conserve un système présidentiel. Alors, que retenir de tout cela? Eh bien, qu'une manœuvre est en cours, manifestement, même si elle n'est pas claire pour les observateurs. Ce qui est clair, c'est que Poutine prépare l'après 2024. 2024, c'est la fin de son mandat. Dans les conditions actuelles, il ne pourra pas se représenter, mais il est peut-être en train de changer les règles du jeu. En tout cas, pour son principal opposant, Alexei Navalny, ça ne fait toujours aucun doute. Poutine cherche à rester dirigeant à vie.
Voilà, de quoi nourrir hein, sur des nouvelles interrogations quant à son avenir au-delà, effectivement, de 2024. Merci beaucoup Rémi. Théophile Cossa s'est installé. Bonsoir Théophile.
Bonsoir Nathalie.
Demain dans nos vies avec vous, du positif ce soir. Vous nous parlez d'une nouvelle appli pour sauver des vies?
Oui Nathalie, ça s'appelle Save Life et c'est une idée géniale parce qu'elle est toute simple. On commence par le début. Vous savez que les accidents cardiaques sont une des premières causes de mortalité en France. Pour sauver quelqu'un, il faut agir très vite. Tout se joue dans les 10 premières minutes, sauf que les délais d'intervention des pompiers ou du SAMU sont en moyenne de 13 à 14 minutes. D'où l'idée de Save Life de mettre en relation les citoyens formés au premier secours et les services d'urgence pour commencer l'intervention avant l'arrivée des pompiers.
Et ça va se passer comment? Ça marche comment?
C'est très facile. Vous téléchargez l'appli Save Life sur votre smartphone. Une fois installé, vous vous inscrivez et vous devenez citoyen sauveteur susceptible maintenant d'être contacté à tout moment via l'application. Exemple, le SAMU est appelé pour un cas de malaise cardiaque. En attendant que l'ambulance arrive sur place, le régulateur décide de lancer une alerte sur Save Life qui géolocalise immédiatement les citoyens sauveteurs les plus proches. Il se trouve que vous êtes juste à côté, vous recevez alors une notification qui vous propose d'intervenir. Si vous acceptez, l'appli vous indique le chemin pour retrouver au plus vite la victime. Vous pouvez alors commencer à pratiquer le massage cardiaque en attendant les secours.
Attendez, c'est pratiquement révolutionnaire ce que vous dites là. Ça marche et ça marche quand?
Eh bien oui, ça marche. Pas plus tard qu'il y a une semaine, un jeune de 22 ans a fait repartir le cœur d'un bébé de 6 mois à Paris. Tenez-vous bien sur le capot d'une voiture avant l'arrivée des pompiers. Et ce n'est pas une première. Avis aux héros du quotidien en devenir. Save Life, l'appli qui sauve des vies.
Merci beaucoup Théophile Cossa. Vous avez bien fait de venir encore une fois ce soir.
Europe 1.
À suivre dans votre grand journal du soir dans la prochaine demi-heure, Nathalie Lévy.
Le rappel des titres et juste après, il va débouler dans ce studio. Mathieu Madénian de retour pour un nouveau spectacle sans oublier d'aborder l'actualité avec lui. Il est avec nous jusqu'à 20h sur Europe 1. Appelez-le, appelez-nous pour l'interroger.
Bien sûr, vous pouvez parler à Mathieu Madénian jusqu'à 20h, ça se passe au 3921 et sur Twitter également, on lit tous vos messages avec le hashtag Europe 1. Vous écoutez Nathalie Lévy jusqu'à 20h. 19h30 sur Europe 1, la suite de votre grand journal du soir, Nathalie Lévy.
Sébastien Krebs avec le rappel des titres.
Le placement préféré des Français va moins rapporter. Le taux du livret A va baisser à 0,5% au lieu de 0,75% et cela dès le 1er février. Décision prise par le gouvernement, cela concerne 55 millions de Français. À retenir également ce soir le coût de la grève dans les transports. 200 millions d'euros pour la RATP, 850 pour la SNCF, affirme Matignon. Ségolène Royal face aux accusations sur l'utilisation de ses moyens d'ambassadrice des pôles. Elle réplique sur Facebook, pas un euro n'a été utilisé selon elle à des fins personnelles. Elle promet de fournir tous les justificatifs au parquet financier. L'apaisement entre Pékin et Washington, une trêve dans la guerre commerciale signée à la Maison Blanche. Dans une lettre, le président chinois Xi Jinping salue un bon accord pour le monde entier. Donald Trump se rendra en Chine. Et puis le foot, plusieurs matchs en retard se jouent ce soir en Ligue 1. Deux matchs en cours, il y a Amiens contre Reims et Nîmes contre Rennes. Les scores 0-0 après une demi-heure de jeu et à 21h, le PSG se déplace à Monaco.
Merci Sébastien et vous revenez demain 18h sans faute avec de nouvelles infos. Anissa, une nouvelle perturbation arrive demain.
Oui, effectivement, elle arrive par la Bretagne en fait, hein, comme celle d'hier, par la pointe bretonne. Une nouvelle perturbation avec du vent, de la pluie. Une perturbation qui se renforce dans l'après-midi avec des pluies très soutenues. Du vent du sud qui souffle jusqu'à 110 km/h sur la pointe Finistère, hein, sur la pointe du Raz. Donc soyez très prudents demain. Sur la Normandie, le Cotentin et les Pays de la Loire, le vent souffle également demain assez fort, jusqu'à 80 km/h dans les terres. À la
avant de cette nouvelle perturbation sur toute la moitié nord et le long de la Méditerranée. Bien là, ce sont des nuages très épais demain avec quelques gouttes possibles au bord de la Grande Bleue. Partout ailleurs, eh bien c'est du grand et beau soleil et des températures très douces pour un 16 janvier. Hein. Demain, nous aurons 3 à 6 degrés le matin jusqu'à 10 degrés au bord de la Méditerranée. Dans l'après-midi, 13 à Caen, Nancy et Belfort, 14 pour Paris, 15 à Clermont-Ferrand et 18 dans le Pays Basque. La suite de votre grand journal du soir, Nathalie Lévy, avec votre invité jusqu'à 20h. Il nous apporte de la bonne humeur, il nous présente son nouveau spectacle. Mathieu Madénian est avec nous.
Hello Mathieu Madénian, bienvenue.
Merci de l'accueil, c'est gentil.
Bonsoir, ravi de vous avoir dans ce studio. Vous êtes humoriste, vous êtes comédien, vous croquez
mannequin,
aussi
mannequin.
L'actualité. J'aurais dû commencer
mannequin,
par ça, mais
mannequinat.
Bien sûr.
Merci.
Oh là là, mais comme
c'est très important, ça se voit pas tout de suite, mais pourtant il faut le préciser.
Heureusement que vous me le rappelez, et évidemment c'est à souligner en gras. Bon alors quand même, accessoirement.
Merci. Ouais. Ah. Allez, on met une chanson.
Bon, accessoirement, vous faites évidemment du. Du quoi d'ailleurs du ça s'appelle quoi? Ça s'appelle du stand-up.
On dit
ça
du
s'appelle...
stand-up. Je sais pas, ouais. Je monte sur scène et je parle dans un micro à des gens qui ont payé pour m'écouter apparemment.
Et mais... seul en scène,
ouais,
effectivement.
Ouais, ouais.
Spectacle familial. Alors seul, mais en famille quand même. C'est à partir de vendredi, là, le 17 janvier, jusqu'au 25 avril au Théâtre de l'Œuvre.
Ouais, on a
c'est
prolongé.
À Paris. Exactement. Ouais. Les vendredis et samedis à 21h, parce qu'avant c'était le théâtre du Rond-Point.
Ouais, hein. On a été complètement au Rond-Point. On s'est dit, vas-y, on continue.
Donc
c'était... Ouais, c'était bien. En plus,
très
au théâtre du Rond-Point, un mec comme moi avec un accent, c'est quand même pas mal. Hein.
Bon, ça va fuser, hein, pour les auditeurs qui nous écoutent. Ça va fuser, il faut être prévenu. Bon, alors le sujet central de votre spectacle, effectivement, c'est la famille. Vous êtes un grand enfant, c'est ça? C'est un peu ce que j'entends là.
Je suis resté très attaché à ma famille, à moi. Et comme c'est un troisième spectacle, c'est venu naturellement de parler des miens, en fait. Et comme je les vois pas souvent, parce qu'ils sont dans le sud,
ouais,
le fait de parler d'eux et de les imiter sur scène, ça me permet d'être avec eux un peu tous les soirs. Donc c'est quand même bien, j'aime bien.
Alors il y a quand même une tendance, hein, peut-être que c'est la société qui nous amène, l'actualité aussi, une tendance comme ça à se retourner vers nous, vers nos familles. Olivier de Benoît est venu nous voir aussi la semaine dernière. Lui, son
quel
spectacle,
horrible personnage, je le déteste.
Allez-y, balancez
là,
tout.
Il est en garde à vue, trafic de cannabis.
Oui, parce
mais
que,
bon,
parce que quatre enfants,
quatre
et son
enfants.
Spectacle, son dernier spectacle s'appelle Le Petit Dernier. Non, je me disais, il y a un truc avec la famille, c'est bien de parler de la famille, il y a une matière à raconter sa famille.
Mais tout est famille, en fait. Tout est famille.
C'est
universel. Tout à l'heure, il y avait l'affaire Grégory. C'est vrai, mais ça reste une affaire de famille. C'est tout est famille. Et quelle que soit la famille, elle évolue, que ce soit la famille traditionnelle, monoparentale, homoparentale, recomposée, il y a toujours famille dedans. Les gilets jaunes, c'est une histoire de famille.
Ouais.
Des gens qui se réunissent sur des ronds-points alors que c'est Noël parce qu'ils sont trouvés entre eux. Quoi.
Mais elle est facile à croquer, votre famille. Il y a vraiment des cas particuliers,
la
des
mienne,
signes
c'est
particuliers
la,
dans votre famille.
À la fin du spectacle, je m'aperçois qu'en fait, elle est normale. En fait, je m'aperçois que c'est pour en faire. En fait, le résumé de ce spectacle, c'est ma famille est normale. J'ai eu de la chance d'avoir des parents qui m'ont aimé et j'ai jamais de rien. Ils m'ont toujours soutenu, c'est plutôt cool. Mais c'est vrai que au travers des je parle de la culpabilité de la mère, de la place de ma sœur qui est l'enfant préféré, automatiquement. Les gens s'y retrouvent tout de suite, quoi.
Ouais.
Ouais, c'est sûr.
C'est ça. Donc vous avez forcé le trait, en fait, un petit peu
même
pour
pas,
chacun.
Ah non, sur scène, toutes les histoires sont vraies. Ouais. C'est des anecdotes, et à partir des anecdotes, j'en tire des théories et j'essaie de faire en sorte que les gens s'y retrouvent.
Comment ils ont réagi?
Mais je pensais que ça allait changer quelque chose. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est eux qui me rappellent pour me dire t'as oublié de raconter ça, avec leur accent du sud. Mon père est très très fier que je parle de lui sur scène. J'ai un père qui vit à tout ça par procuration.
Alors il y a la famille, mais il y a le couple au sein de la famille, évidemment. Il en prend aussi pour son grade. Le couple, c'est des névroses, c'est des cristallisations, c'est aussi une matière exploitable à l'infini.
Ouais, après, c'est la manière dont on l'exploite. Je pense qu'on parlait d'Olivier, on parle de moi, mais en fait, on parle de nos histoires perso pour ensuite élargir. Donc, en fait, tous les sujets de tous les humoristes, c'est à peu près tous les mêmes. C'est l'originalité.
Bien sûr, tous les mêmes, mais quand même, il y a des tendances, il y a des époques aussi. On fait plus de politique selon les uns et les autres. On va plus sur des sujets de société, on est plus centré sur nous-mêmes.
Ouais,
ou sur...
mais mes deux premiers spectacles, c'était assez sur la société, ouais. Sur la politique. Sur ce qui m'est arrivé dans ma carrière pro. Et là, j'avais envie de faire un truc un peu plus pagnolesque et parler des miens. Mais de toute façon, même la famille, tout ce qui est au travers de la famille, c'est politique. Hein. Je parle de PMA, je parle de GPA, je parle de défilé de la manif pour tous. C'est de la politique. Hein. Et pourtant, ça reste de la famille.
Alors, on va évidemment entendre des auditeurs parce qu'ils ont plein de questions à vous poser. Vous parliez aussi de votre ancienne carrière. On va y revenir parce que vous avez failli être avocat. Vous auriez pu être en grève d'ailleurs en ce moment, du coup.
Exact. Jetez ma robe comme ça.
Ouais, bah, réfléchissez à un petit truc
je
que vous allez
très
nous
bien
dire.
Le string.
Ah.
C'est pour ça que j'ai arrêté, en fait, parce qu'on ne voyait pas la ficelle, voilà. C'était compliqué.
Sous la robe, heureusement. Tout de suite, Mathieu Madénian, et vendredi, à partir de vendredi, sur scène au Théâtre de l'Œuvre à Paris.
Votre grand journal du soir, c'est tous les jours jusqu'à 20h avec Nathalie Lévy et son invité ce soir, Mathieu Madénian. Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Nathalie Lévy et son invité jusqu'à 20h qui nous présente son tout nouveau spectacle. C'est Mathieu Madénian qui est là. Vous pouvez lui poser toutes vos questions en direct au 3921 et sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Et on voit l'effet de Mathieu Madénian sur Anissa parce qu'elle a le sourire dans la voix quand elle vous présente. Humoriste, comédien, chroniqueur au Théâtre de l'Œuvre à partir de vendredi, donc ce 17 janvier là jusqu'au 25 avril, les vendredis et samedis, c'est à Paris, spectacle familial. Alors spectacle familial dans lequel Mathieu Madénian, vous croquez votre papa. Pas seulement, puisque tout le monde y passe, mais votre papa particulièrement, parce que je crois qu'il est tout le temps avec vous.
En fait, il a une passion, c'est être VIP. C'est comme ça. Donc, je sais plus si t'as des pères. Ouais, il veut avoir le badge. Dès qu'il a un badge, il fait partie de ces gens qui. Quand il m'accompagne sur les tournées, souvent, il vérifie le nombre d'invités, qui a payé, qui n'a pas payé. Si on est des Arméniens, il faut regarder.
Il fait la comptabilité.
Ah, il fait la comptabilité et il a l'impression que c'est lui sur scène. C'est ça qui est incroyable. Quand je sors de scène, il est dans les loges. Mmh. J'ouvre la porte de la loge, il m'a fait on a été bon ce soir.
Ah oui, c'est ça, il y a le débrief.
C'est
et tout.
Lui qui a été sur scène.
Il vient un peu par procuration.
Ouais, j'ai plein de mails de lui que je n'ai jamais ouvert avec des sketchs. Sketch du péage, sketch de
génial.
La cantine,
attendez,
sketch de
vous
la
rendez
voiture.
Il y a peut-être une mine d'or quand même.
Peut-être, mais je vais les ouvrir, papa. Je pense qu'il m'écoute. Je vais ouvrir tes sketchs. Mais
on ouais, salue votre
père,
papa.
Mais j'ai un père qui me suit, qui est adorable là-dessus. Ouais. Mais il a ce côté VIP, il veut toujours être VIP. Dans n'importe quoi.
C'est important parce que, évidemment, on sait que vous êtes arménien. C'est extrêmement important, la famille.
Oui.
Chez vous, notamment chez les Arméniens. Et je les salue d'ailleurs, la communauté arménienne, que j'affectionne particulièrement. C'est important, on travaille beaucoup en famille aussi.
Oui. Mais moi, j'ai été baigné du côté de mon père, ils sont arméniens. Mmh. Du côté de ma mère, ils sont normaux.
Mmh.
Et c'est vrai que du côté, là, les grands-mères arméniennes, enfin, tu vois, c'est quand même tout autour de la bouffe.
C'est très présent.
Ah non, mais c'est vraiment. Je crois que j'ai jamais vu ma grand-mère du côté de moi hors de la cuisine. Elle passait sa vie à cuisiner. Sa main, c'était une louche. Elle tournait comme ça. Il y avait des boulettes de viande qui volaient.
C'est comme ça qu'ils transmettent leur amour.
Mais c'est
leur
ça.
Affection,
mais c'est ça. Et si tu manges pas, ils se vexent. Si t'es malade pour manger, si tu manges pas, c'est les beleks, les oh là là là. Mais c'est vrai.
Et
que...
dites-moi vos parents, donc, puisque vous en parlez, sans fausse pudeur, ils sont retraités maintenant. Et ça veut dire que ça les occupe pas assez.
Non, mon père, il a repris le boulot. Non, il veut vendre des choses.
Ouais.
C'est n'importe quoi, il vend. Voilà, dès qu'il y a un truc, il met un guichet, il vend. Et ma mère, elle se plaint que mon père continue à travailler. Donc l'équilibre, il est respecté.
Ça se chamaille, forcément.
Bien sûr, il se gueule dessus sans arrêt. Moi, je suis devenu l'arbitre du truc. Quand je descends, je suis devenu le mec qui doit séparer mes parents et leur expliquer qui a tort, qui a raison. Ça, c'est rigolo. Hein.
Et ça, vous racontez sur scène, vous prenez des exemples de leur chamaillerie.
Je raconte que le fait de rentrer chez moi est un... Comme la plupart des gens, au départ, t'es content et puis vite, tu te fais « Mais qu'est-ce que je fous là, en fait ?» Tu vois, moi, ils habitent à Perpignan, ça me fait ça hors lit. Mais déjà, je me dis « Mais par exemple, ils ont gardé... t'as deux types de parents, c'est les parents qui transforment la chambre des enfants en bureau salle de gym ou alors en sanctuaire. Moi, c'est un sanctuaire. Ils ont gardé ma chambre d'ado intacte. Il y a des photos de moi sur le mur. J'ai 8 ans partout. Quand je rentre dedans, j'ai l'impression d'être dans la chambre d'un enfant qui était enlevé. Je suis l'inspecteur du FBI et ma mère est là. Ils ont eu 43 ans. Retrouvez-le. Je vais le retrouver, madame. Mais ils ont gardé ce truc-là. Je suis resté ce gamin de 8 ans qui va tuer des fourmis dans les vignes. Ce que je suis pour eux.
Mais n'est pas Mathieu Madénian qui veut. On les comprend quand même, votre parole. Alors, vous parlez d'inspecteur du FBI. Vous êtes passé pas si loin que ça. Tiens, on a une question d'Arthur sur votre première vie, en quelque sorte. Parce que vous avez un peu deux vies. Enfin, vous avez déjà 12 vies, Mathieu Madénian. Mais quand même, Arthur, bonsoir. Vous nous appelez de Nantes. Votre question, bonsoir.
Oui, bonsoir Nathalie. Bonsoir Mathieu.
Salut.
Oui, vous avez été avocat, ou du moins, je ne sais pas si vous avez exercé réellement.
Non.
Mais dans ce métier d'avocat, vous avez dû composer. Vous composez lors de vos séances, une thématique. Chaque fois que vous avez un client à défendre, vous montez pratiquement un sketch, en fait. Vous allez puiser dans ces éléments du dossier les plus et les moins, et vous allez vous mettre en scène pour défendre votre client.
Ouais.
Et je me demande, c'est un peu ce que vous faites maintenant, puisque vous allez puiser dans votre environnement, si vous voulez, des sujets qui vont composer votre texte
sur scène. Eh oui, merci.
Alors,
beaucoup,
oui.
Arthur.
Ouais.
Du coup, ça vous a servi, en fait. Qu'est-ce qui vous a poussé, en fait, à cesser votre activité d'avocat, ou presque, puisque vous étiez tout près?
C'était marrant ta question. Parce qu'en fait, J'ai pas compris, j'ai même pas répondu. Bon, c'est pas grave.
Voilà.
En tout cas, Arthur, racle-toi la gorge, déjà, très important.
Parce que là, Arthur de Nantes qu'on embrasse, mais je suis sûr qu'il voulait vous demander
en fait,
ça.
Arthur, il a voulu dire que le parallèle entre le métier d'avocat et le métier d'humoriste.
Et lequel est le plus difficile, tiens d'ailleurs
Lequel est le plus. Alors, avocat, tu sais que t'as perdu quand ton client se prend 20 ans. Alors qu'humoriste, tu le sais tout de suite parce que tu es pas marrant et tu sais.
Et tu sais que t'as plus que deux personnes dans la salle.
Et t'as le droit à plusieurs essais.
À chaque fois, il faut convaincre.
En fait, avocat, ça m'a appris un truc, mes longues études. Puisque j'ai fait quand même 7-8 ans d'études, c'est le boulot en fait. Dans ce travail-là d'humoriste, il y a un peu de talent, mais si tu ne travailles pas, il n'y a rien.
Mais
en fait.
Et comment vous en arrivez là quand même? Parce que la criminologie, futur avocat, et puis la scène. Il y a une humoriste, hein, Caroline Vigneault,
Sylvie Joly,
Caroline Vigneault qui a tombé la robe.
Mais de toute façon, tous ces gens qui sont sur scène, c'est que des accidents. C'est que des accidents. Ouais. Je me rappelle.
Parce qu'en fait, quand on est avocat ou en devenir, on joue déjà avec le public?
Avocat, c'est des comédiens. Je veux dire, moi, j'aime bien regarder mes potes parce que tous mes potes sont restés avocats, procureurs, juges. Quand je les vois plaider, je suis mort de rire.
Non, mais c'est quoi le déclic quand même, Mathieu? Il faut y aller, quoi.
En fait, c'est que moi, je vivais dans le sud de la France, à Perpignan, et il y a plein de villages de vacances sur la côte. Donc, en fait, je me débrouillais pour réussir tous mes examens en juin. Ça fait que j'avais tout l'été pour faire mes sketchs dans les villages de vacances. Ouais. Et en fait, ça me permettait. C'était mon boulot d'été, c'était de monter sur scène et faire des blagues. Ouais. Et un jour, je suis arrivé à la fin de mes études, et là où d'autres font une année de césure et font le tour du monde, ben moi je suis monté à Paris pendant un an, ça devait durer qu'un an, et puis j'ai été engagé dans Un gars et une fille, la série, qui a permis de me payer mon loyer. Et j'ai eu beaucoup de chance en fait, c'est juste de la chance.
En fait c'est juste de la chance votre parcours Non, c'est énormément de travail, parce que de par votre
formation
aussi.
Non mais il y a du boulot, mais si tu rencontres pas les bonnes personnes, ça ne veut rien dire. J'ai eu la chance, j'ai eu beaucoup de chance, je te jure, c'est vrai. Et si ça s'arrête demain, je pourrais même pas me dire « Mon Dieu, quelle horreur !» Non, j'ai profité, il m'arrivait que des trucs bien. J'ai rencontré des belles personnes et j'ai pu faire un métier jusqu'à présent qui m'éclate et grâce auquel je vis bien, donc c'est bien.
Alors, la chance, les rencontres, on en parle encore dans un instant parce que vous êtes quand même multitâche, hein. Vous avez bossé aussi à Charlie Hebdo, c'est pas rien, l'actualité.
Je continue à bosser.
Mais bien sûr, donc on se reparle dans un instant, on a plein de trucs à se dire.
Et vous pouvez vous aussi poser vos questions à Mathieu Madénian, il est là jusqu'à 20h30.
Parce que là. Arthur n'a pas fini la question.
Et bien on le retrouve juste après ça, tout de suite. La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Mathieu.
La question d'Arthur.
Arthur qui est encore. Là, il arrive à la fin.
Mathieu Madénian,
si vous nous écoutez. Il est en apnée.
Restez sur Europe 1, Arthur.
Il est votre invité, Nathalie Lévy. Jusqu'à 20h, on découvre son nouveau spectacle. On est plein de bonne humeur ce soir et ça fait du bien. Mais avant de continuer de parler avec Mathieu Madénian, il y a la playlist du soir quand même, avec le titre du jour.
Alors, est-ce que vous écoutez beaucoup de musique, Mathieu Madénian?
Ouais, mais peut-être pas la musique trop actuelle. C'est quoi là, la chanson?
Alors là, ce soir, c'est un des titres les plus populaires du moment. Lil Nas X, Old Town Road.
Yeah, exact, j'ai rencontré mes parents.
Un peu comme moi.
C'est quoi? Y'a pas du Aznavour, un truc plus calme.
Je me sens moins seul ce soir.
Non, mais vous êtes jeune encore, Mathieu.
Non. Là, j'écoute en ce moment, j'écoute. Parce que quand tu fais des spectacles, t'écoutes les musiques qui vont avec le spectacle. Ouais, j'écoute beaucoup de Jonas et de Charlie Lécouture en ce moment.
Si vous aimiez ce morceau, bah, vous ne l'avez pas écouté, il faudra se le télécharger.
Ah ouais, si vous aimez ce morceau, changez de radio.
Voilà, le syndicat national de l'édition phonographique a publié le top 10 des chansons les plus populaires de l'année et ça en fait partie. C'était magnifique. Mathieu Madénian, vous êtes sur scène. Spectacle familial, c'est le titre. Au théâtre de l'œuvre à partir de vendredi jusqu'au 25 avril, les vendredis et les samedis à 21h. Vous enchaînez après le théâtre du Rond-Point. Et Claude, je vous assure, écoutez, Claude, bonsoir Claude. On vous accueille depuis les Charentes-Maritimes. Et Claude, il a une question pour vous. Une question courte. Bonsoir Claude.
Bonsoir Nathalie. Bonsoir Mathieu.
Salut.
J'aime beaucoup ce que vous faites. Vraiment, vous me régalez.
Merci.
Je voulais vous demander.
Rien de sexuel, j'espère.
Qu'est-ce qui inspire en vous le sujet d'un spectacle? Est-ce que c'est une playlist par élimination ou juste une phrase ou une discussion entendue et puis vous brodez dessus?
En fait, c'est toujours des accidents. C'est pas toi qui choisis. Il y a des humoristes qui choisissent des thèmes particuliers. Ils se disent, oh, je vais faire tout là-dessus. Moi, en fait, c'est un accident. C'est le lendemain, je crois, le soir même de ma première captation, de la captation du dernier spectacle qui s'appelait Un état d'urgence au Bataclan. Le soir même, je suis retourné dans un petit comédie club que je gère qui s'appelle le Panama de Café. Ouais. Je suis monté sur scène à 23h, je crois. Et j'ai imité ma mère qui me gueulait dessus parce qu'elle voulait venir au Bataclan me voir. Et en fait, la date ne lui allait pas. Il fallait changer toute l'organisation. Et donc, j'ai commencé à imiter ma mère sur scène. Et les gens sont sont marrés. Et avec mon producteur Kader Aoun, avec qui j'écris, on s'est dit, mais c'est marrant, vas-y, creusons un petit peu. Et il m'a dit, parle-moi de ta famille. Et c'est venu comme ça, naturellement. En fait, c'est pas... moi, mes spectacles, c'est que des accidents.
De bons accidents, ouais. Des accidents qui font du bien. Merci beaucoup Claude depuis les Charentes-Maritimes. Dites-moi, on parlait de cette carte postale dans Charlie Hebdo que vous continuez de tenir hein, 5 ans après le drame, bien entendu, dont on a beaucoup parlé la semaine dernière. On en est où de l'esprit Charlie, Mathieu Madénian, vu par Mathieu Madénian?
Eh ben, c'est rigolo parce que au lendemain de l'anniversaire, c'était ce mot des attentats, j'ai regardé la carte postale que j'avais fait le lendemain. Et le lendemain, l'esprit de la carte, c'était je gueulais sur Charlie Hebdo parce que moi, quand Charles m'avait vendu Charlie Hebdo, c'était un magazine que personne ne lisait, un magazine de punk. Et là, je me retrouve avec 3 millions de personnes qui achètent le truc. Même ma sœur, qui lit Closer, était devenue Je suis Charlie. Et à la fin, je finissais la carte postale en disant mais je sais ce que tu vas me dire, Charlie. Dans 5 ans, tout sera devenu normal. Tout le monde nous détestera. On va nous cracher dessus. Les ventes retomberont et je serai encore très heureux de faire. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. C'est que les ventes, elles étaient à 30 000 avant les attentats. Elles sont à 60 000. Et maintenant, quelles que soient les couvertures, il y a des gens qui trouvent à redire. Je trouve que c'est
votre arme. C'est votre arme à vous, l'humour. C'est de dire comme ça. C'est ce que vous avez dit, je crois, sur France Info après les attentats. On a chacun ses armes. Moi, ce que j'ai trouvé, c'est d'écrire, c'est raconter des trucs marrants sur scène. L'humour, c'est votre arme pour dire
quoi. Ouais. C'est une arme qui fait pas mal, en fait. Sûr. Voilà, c'est juste ça. Mais on a chacun un moyen de se défendre. Et moi, la seule défense que j'ai, c'est de l'humour, quoi. Ouais, d'essayer de trouver de continuer à me marrer, quoi. C'est exactement ce que j'ai fait avec Charlie.
Vous n'avez pas été inspiré par à la fois la crise des Gilets jaunes, là, la réforme des retraites avec ces mobilisations pendant un mois. Là, même vos confrères, qui auraient pu être vos confrères avocats, les robes noires, très en colère, etc.
En fait, vu que là, j'écris sur la famille, c'est vrai que ça m'inspire quand j'écris dans Charlie ou quand je fais des impros sur scène, mais dans le spectacle, non. Je vais en parler des Gilets jaunes parce que pour moi, ça représente une nouvelle forme de famille, mine de rien. Mais c'est vrai que non, ce n'est pas des sujets que j'ai abordés pour l'instant. Peut-être que ça viendra.
Ouais. Les avocats, vous les soutenez quand même
ouais,
bien Vous
sûr.
Regardez
ouais.
ce qui se passe. Oui, vous voyez qu'ils en sont peut-être à devoir augmenter leurs cotisations.
Mais j'ai plein de potes avocats qui galèrent et il y a de plus en plus d'avocats qui se retrouvent après des longues études. Et puis c'est quand même un boulot qui est aussi essentiel que la plupart, enfin, qui mérite autant d'attention que n'importe quel boulot. Et bien sûr que je les soutiens et on va voir comment ça va se terminer cette histoire.
Un dernier mot, Mathieu Madénian, je rappelle que vous êtes au Théâtre de l'Œuvre à partir de vendredi jusqu'au 25 avril, les vendredis et les samedis à 21h. Vous êtes le fils aîné.
Ouais.
C'est compliqué.
C'est ma sœur, c'est la préférée, donc c'est moi qui.
C'est toujours l'aîné qui trinque.
En général, c'est ça. En général, c'est le petit dernier, c'est le préféré dans les familles, dans la plupart des fratries. Et le dernier, l'aîné, c'est le brouillon, celui que les parents ont essayé
de. Ce que disait Olivier de Benoît.
Oui, mais lui, c'est le brouillon.
C'est la crêpe ratée. Ouais,
c'est exactement. C'est l'espèce de mon père. Pour moi, j'étais un rat de laboratoire. Il tentait des trucs. tu vois, je me cognais la tête, je jouais avec les prises. Maintenant, ils ont compris.
Et dites-moi, vous avez commencé sur M6 avec du coup un gars, une fille. On avait minimum. Mazoyer qui nous attend juste après et qui vous adore, j'en suis sûre. Je la vois dans l'écran, c'est pour ça que j'en parle.
Je le déteste.
Aussi. Il y en a plein des humoristes qui passent au cinéma, enfin qui arrivent maintenant au cinéma, qui sont dans autre chose que des séries, même dans des longs métrages. Ça, c'est quoi? C'est l'idée?
Ah ben,
c'est vous
enfin,
aussi?
Le cinéma, en général, c'est pas toi qui choisis d'en faire, c'est le cinéma qui s'intéresse
à toi.
Vous
avez choisi d'en faire et vous avez envie d'en faire.
Pour l'instant, je crois pas que j'excite beaucoup les réalisateurs. Non, mais il faut être lucide. Là, il y a beaucoup de chaînes de télé, France 2, TF1 qui me propose pas mal de beaux rôles, que ce soit dans Les Bracelets Rouges. Là, je vais être le héros d'un unitaire sur TF1, une comédie, une pure comédie, donc je suis très heureux. Et moi, mon boulot, c'est monter sur scène, c'est un truc que je maîtrise, c'est un truc que je peux contrôler. Parce que le cinéma, j'ai pas envie d'attendre que mon téléphone y sonne. Ouais. Là, ce soir après l'émission, je vais jouer, je vais tenter des nouveaux textes, je vais sûrement me planter, mais au moins, je maîtrise ce que je fais et ça ne dépend que de moi, et déjà pas mal.
Eh ben c'est très bien, et nous on est déjà ravis, et puis en plus, regardez, spécial dédicace.
Ouais. Ça c'est bien.
Vous demandez, on exécute. Hein.
Oh là là,
c'est pas beau.
Qu'est-ce que c'est chouette.
Voilà, rien que pour vous, pour nous aussi. Mathieu Madénian, merci beaucoup. Spectacle familial au Théâtre de l'Œuvre à Paris. À partir de vendredi jusqu'au 25 avril, les vendredis et samedis, on sera là. Enfin, si vous nous invitez.
Mais venez.
Émilie Mazoyer, n'est-ce pas?
Bien sûr.
Bonsoir à vous.
Bien
votre programme du jour.
Alors, plus tard, j'irai voir Mathieu Madénian.
C'est une ex.
les scoops.
On est restés deux heures ensemble, c'est super.
J'ai jamais oublié Mathieu.
Ah, c'est super. Moi, je les filme encore. Hein.
Ah, c'est vrai.
On est encore à une heure de grande écoute, les amis. Hein.
Alors, allons-y. On pourrait les poster sur Instagram, on ferait du like.
Deux likes.
Carré blanc. Carré blanc, je m'y oppose.
Moi, mes parents aussi likeraient.
Ça fera quatre.
Ça fera quatre, on sera bien. Non, ce soir, on va être avec un chanteur qui s'appelle Joseph d'Anvers et qui sort son premier vrai roman, dit-il. Son deuxième bouquin, ça s'appelle Juste une balle perdue, une histoire rock'n'roll, histoire un peu initiatique aussi, c'est très chouette. Et Joseph d'Anvers sera avec nous tout à l'heure à 20h30. Je vous aime, Mathieu.
Je t'aime aussi.
Oh là là. Écriture et musique avec vous, Émilie Mazoyer, c'est magnifique. On est en train de vivre un moment à part, hein, je vous le dis. C'est comme
ça, oui,
sur
c'est
Europe
1. Les révélations, oui. J'ai bien compris.
Allez, on vous laisse les clés. On se retrouve, nous, ici même, demain, 18h, 20h. Merci, Mathieu Madénian, d'être passé par
merci.
Là. Ça se passe sur Europe 1 chaque soir à Nice. On
bien
vous souhaite
sûr.
Donc une très belle 18h. Soirée à tous et restons ensemble pour écouter Le Monde Changer.
Évidemment, merci. C'était Nathalie Lévy sur Europe 1.